Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est le cours de théologie de la liturgie. C'est ça, comme j'ai déjà dit, c'est plus théologie de la liturgie que liturgie. Parce que, par exemple, quand on a un cours de liturgie, ce serait un cours sur l'histoire de tel rite, l'histoire de la liturgie, l'histoire des offices. On comparerait avec des manuscrits, on montrerait l'évolution. Enfin, c'est un autre propos. Non, moi, ce que j'assume, c'est un peu différent. C'est plutôt l'interprétation du sens des offices liturgiques, de la signification de ce que nous faisons et de, je dirais, de l'enjeu de ce que nous faisons quand nous présentons devant Dieu pour le prier. Il y a une phrase dans Saint Cyril de Jérusalem qui parle de ça. Il dit : il s'agit pour nous d'offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable, une offrande de bonne odeur. Enfin, voilà, c'est le but de notre vie quand même. C'est cela, c'est d'être agréable à Dieu, bon, par nos actes bien sûr, par nos pensées, par nos paroles, mais principalement par l'offrande que nous lui apportons dans le culte et par conséquent aussi par notre vie. C'est-à-dire que la conception chrétienne de la vie est une conception sacerdotale, comme on l'a déjà dit, je pense, une conception royale aussi, une conception prophétique, mais elle est foncièrement une conception sacerdotale. Et donc notre relation avec Dieu est une relation dans laquelle nous nous sentons appelés par le Saint-Esprit à présenter à Dieu une offrande qui lui soit agréable. Et donc ça, c'est vraiment le plus important. Et comment est-ce que notre offrande est agréable? Nous le savons principalement par le psaume 50. Vous savez que le psaume 50 se termine par « Alors on offrira des victimes sur ton autel, alors, etc. » Le « alors » est peut-être le mot le plus important du texte, parce qu'il montre que le sacrifice agréable à Dieu, c'est celui qui suit l'oblation du cœur et le brisement du cœur dans le repentir, dans la joie et dans l'amour pour Dieu. C'est que c'est ce qui rend agréable le sacrifice liturgique, le culte à Dieu, et qui rend agréable aussi notre vie en tant que culte, en tant qu'offrande. C'est le fait que en profondeur, il y a ce cœur brisé et humilié que Dieu ne dédaigne pas. Un cœur contrit et humilié, tu ne le dédaigneras pas. Et c'est ça le sacrifice vraiment premier et fondamental. Et ça, c'est d'autant plus important en ce temps liturgique où nous sommes. Je pense que c'est important de le dire, de le redire, de le préciser. Nous sommes déjà dans cette période du carême, du grand carême, qui est une période éminemment liturgique, éminemment cultuelle, éminemment, où nous passons beaucoup de temps, et pas seulement du temps, mais beaucoup, nous consacrons beaucoup d'attention et beaucoup d'amour à Dieu à travers les offices liturgiques que nous avons, qui sont, comme vous le savez, tout à fait uniques, puisque la liturgie des présanctifiés n'est offerte à Dieu que pendant cette période-là. Et donc, il y a la liturgie selon Saint Basile également n'est offerte à Dieu que pendant la période du Grand Carême. Et il y a des offices comme ça qui sont quand même spécifiques de ce temps-là et qui ont comme caractéristique des offices particulièrement développés. Je pourrais dire que la période du carême, c'est une période de luxe. C'est une période de luxe liturgique, de luxe hymnographique. Les prières du triode que nous avons tous les jours, dans le canon propre au triode, sont des prières tout à fait exceptionnelles. Il y a des enrichissements liturgiques caractéristiques du carême, par exemple la multiplication de l'Alléluia. Il y a également le fait que nous lisons beaucoup plus les textes bibliques, la parole de Dieu en tant que telle. Je ne parle pas de la parole de Dieu monnayée dans les offices, mais de la parole de Dieu en elle-même. La lecture de plusieurs pages de la Genèse ou des Proverbes est à l'honneur. On lit beaucoup plus la parole de Dieu pendant tout le carême que pendant toute l'année. Qu'est-ce qu'on pourrait citer encore comme exemple? Enfin, Bon, il y a la présence, disons la présence, le temps que nous passons aussi à l'église ou à la maison et que nous consacrons à la prière, c'est une forme quand même d'oblation de nous-mêmes, une forme de prendre qui est tout à fait caractéristique tout de même, quelle que soit la forme de prière qu'on a adoptée. Donc cette période de carême est particulièrement propice à une méditation sur le sens de la liturgie et sur l'enjeu de la liturgie, mais encore plus particulièrement dans les jours où nous sommes, puisque nous arrivons à la fin du carême avec le réveil de Lazare samedi prochain, et nous entrons dans la semaine, qui est une semaine glorieuse, la semaine sainte, qui est la grande semaine, qui est la semaine la plus importante du monde, qui est la dîme de toutes les semaines de l'année, et dans laquelle se joue tout le mystère du monde, tout le mystère du salut, et dans laquelle il se joue justement liturgiquement. Donc c'est à travers le culte, à travers la célébration, de manière ou d'une autre, que le mystère du monde entier, du cosmos, le mystère de la condition humaine, le mystère de l'Église et le mystère de notre propre vie est révélé. Nous allons à l'Église pour que nous soit révélé le mystère de notre propre vie. Et donc ça veut dire qu'il y a aussi, dans notre oblation à l'égard de Dieu, il y a un moment où nous recevons de lui quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle la vérité. Donc plus notre oblation est une oblation qui lui est agréable, plus, pas en échange si vous voulez, il ne s'agit pas d'un marché matériel, mais plus en tout cas nous devenons capables probablement de recevoir de lui ce qu'il veut nous donner, c'est-à-dire la révélation de lui-même. Donc nous allons être enrichis du sens de notre vie, de la présence de Dieu dans notre vie au cours de ces épistats. C'est pour ça que, donc de manière tout à fait appropriée, se présente cette méditation sur la liturgie que nous poursuivons aujourd'hui. Et comme vous le savez, dans ces cours qui sont préparés cette année, c'est la méditation sur la présence du Saint-Esprit dans la liturgie, c'est-à-dire la liturgie chrétienne comme manifestation du Saint-Esprit, comme trésor du Saint-Esprit, et comme langage du Saint-Esprit, comme icône du Saint-Esprit. Enfin, j'ai déjà beaucoup développé là, moi, donc ce qu'on peut dire globalement, l'interprétation pneumatologique du culte chrétien, enfin du culte de l'humanité, parce qu'on peut, vous savez, quand on dit le culte chrétien, c'est pas pour réduire aux chrétiens ce culte, c'est comme si le christianisme était une petite secte qui avait ses pratiques culturelles à lui. Il ne s'agit pas ça du tout. Il faut savoir que le culte qui est présenté dans l'Église, c'est le culte qui est offert pour le monde entier. C'est la liturgie de l'humanité. C'est le culte de l'humanité, c'est la prière de l'humanité, c'est l'offrande de l'humanité qui est ici préparée et offerte. Et donc ce culte de l'humanité, il a comme caractéristique d'être animé, plus ou moins, suivant justement les paramètres très intéressants, il est animé plus ou moins par la présence du Saint-Esprit. Parce que ce culte que l'humanité offre à Dieu à travers le ministère de l'Église n'est pas un culte qui aurait un caractère magique, qui serait simplement dépendant de formes exactement observées, efficaces par elles-mêmes. Ce culte est essentiellement, agréable à Dieu parce qu'il est justement porteur de l'Esprit, et porté par l'Esprit, habité par l'Esprit, survolé par l'Esprit. L'Église, si vous voulez, n'est agréable à Dieu que quand repose sur elle l'Esprit Saint, comme nous voyons qu'il repose sur le Fils de toute éternité. C'est assez important. L'icône du baptême du Christ est une icône qui a un caractère liturgique en ce sens-là. Parce que nous voyons, nous contemplons dans cette icône le mystère du Fils sur lequel l'Esprit repose de façon atemporelle. Parce que ce n'est pas à ce moment-là que l'Esprit descend sur lui, mais c'est de façon atemporelle que l'Esprit repose sur le Fils. Or, le Fils et le Fils incarné est la tête de l'Église. Il est l'Église en personne, dans son propre corps. Et donc, nous voyons, en voyant ce vol de l'Esprit sur le Fils, ce vol de l'Esprit sur le Dieu-homme, ce vol de l'Esprit sur le Fils incarné, nous contemplons le vol de l'Esprit sur l'Église elle-même. L'Église elle-même, et donc l'Église elle-même qui doit être agréable à Dieu, c'est-à-dire que le Père Céleste doit pouvoir se reconnaître en elle. Et de même que le Père Céleste dit à propos du Fils, celui-ci est mon Fils bien-aimé, il doit pouvoir dire mon Fils bien-aimé en qui je mets toute ma faveur, tout mon amour, etc. Il doit pouvoir le dire de l'Église elle-même. de l'Église elle-même, en tant que l'Église est le corps du Christ ou la tête du Christ. Le Christ-Église, si vous voulez, c'est quand même un mystère étonnant et qu'il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais séparer le Christ de l'Église. C'est le Christ-Église qui nous intéresse. Or, le Christ-Église est survolé par l'Esprit de façon atemporelle et le Christ-Église est habité par l'Esprit de façon permanente et le Christ-Église est présent aussi par la grâce du Saint-Esprit. Donc c'est, si vous voulez, une méditation sur la liturgie de l'Église, sur la liturgie du monde, une méditation qui est inspirée par la foi dans le Saint-Esprit est une méditation tout à fait indispensable. Et c'est, on doit dire aussi que dès que les chrétiens, dès que les hommes oublient cette présence du Saint-Esprit, et dans l'Église, et dans le culte, la vie de l'Église, comme la vie du culte, tente à se ratatiner un petit peu, à se scléroser, à devenir très sèche, très, très pauvre, très ritualiste, très formaliste, et assez vite à la limite de la magie quand même. Donc si vous voulez, la dégradation de l'expérience religieuse de l'humanité à travers l'Église est une dégradation qui est généralement consécutive à l'oubli du Saint-Esprit. Je ne parle pas du retrait de l'Esprit, parce qu'il ne m'appartient pas de dire si l'Esprit se retire véritablement. Il n'y a que les saints qui peuvent dire cela, si Dieu leur donne les yeux pour le voir. Mais ce qui est possible pour moi de dire, c'est que l'être humain peut oublier l'Esprit. Alors on dit oublier Dieu, oui d'accord, on oublie Dieu, mais l'oubli de l'Esprit, c'est quelque chose de très très particulier. C'est-à-dire, c'est oublier que notre vie peut être insufflée par la grâce de la divinité, que notre vie peut être inspirée, que notre prière peut être inspirée. On oublie que la dimension sacerdotale de la vie humaine, qui est tout à fait fondamentale, est une dimension prophétique. Et simultanément, que roi, prêtre et prophète sont trois attributs de l'humanité première et du Christ lui-même, en tant qu'humanité totale, ce sont trois attributs qui ne peuvent pas être dissociés l'un de l'autre. Donc notre culte est indissociablement un culte sacerdotal, un culte prophétique, c'est-à-dire inspiré par l'Esprit, et un culte visionnaire, un culte qui est nourri par une vision approximative ou complète, ou tant bien que mal, une vision de Dieu, et un culte qui est profondément royal dans la mesure où il est à la tête de toute autre forme d'activité cultuelle ou culturelle et de connaissance dans l'humanité. Il n'y a rien au-dessus de la conscience qui s'exprime dans le culte, quand ce culte est un culte en esprit et en vérité, et un culte agréable à Dieu. Donc c'est pour ça que le fait de suivre cette année cette problématique de l'esprit, ce n'est pas rien. C'est pour vraiment essayer de nous nourrir à nouveau et mieux de retrouver aussi cette saveur en fait et du culte chrétien et de notre vie ecclésiale. Et je pense que dire que j'en profite pour le dire, ça, je pense que le but avoué du carême, c'est bien sûr de célébrer la Pâque du Christ, mais c'est célébrant la Pâque du Christ d'avoir part à l'Esprit. Le but du carême est pneumatologique. La preuve en est que après le carême continue. C'est le carême après le carême, en quelque sorte, puisque nous avons 50 ou 40 jours après la résurrection du Christ pour justement gagner ce don de l'Esprit et faire participer au mystère de la Pentecôte. C'est-à-dire, nous avons 40 jours, carême de l'Esprit, en quelque sorte, pour que de telle façon nous puissions palper cette descente de l'Esprit dans le corps du Christ. Alors ici, ce qui est lié à ça, si vous voulez, ce sont tous les textes qui nous sont donnés. J'ai déjà parlé de ça beaucoup, j'ai déjà dit que la liturgie est officiée par un peuple convoqué et consacré par l'Esprit, etc. D'une certaine façon, il faudrait revenir un peu sur le mystère de non seulement du baptême, mais sur le mystère de la chrismation. Alors ici, c'est dans un livre auquel je vous renvoie, qui est le livre du Père Schmemann, qui s'appelle « D'eau et d'esprit », que c'est le plus manifestement exprimé. j'en profite pour dire justement la chose suivante, c'est que dans notre façon de célébrer, je dis ça pour moi-même évidemment en premier, mais également pour mes collègues qui peut-être écoutent ces conférences, que la façon dont nous avons de célébrer le baptême, nous pouvons toujours la faire de, comment dire, l'organiser de façon plus explicite. Hein. Parce que c'est vrai que quantitativement, la part baptême, c'est-à-dire le mystère de l'eau, occupe beaucoup de temps. Hein. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait qu'il y a une grande prière de consécration de l'eau, qu'il y a une grande litanie, et qu'après ça, on a le l'onction des catéchumènes, finalement l'immersion. Enfin, tout ça occupe beaucoup de temps. Ça occupe les esprits. Certains esprits sont fascinés par le caractère spectaculaire de la chose. Enfin bon, c'est un petit peu, je sais pas comment dire, c'est un moment, vous voyez, voilà, qui attire beaucoup. Après ça, on habille les enfants avec du blanc, la famille est contente, tout va bien, on a l'impression que ça se termine là. Or, ce qui vient de s'accomplir n'est pas tout, ce n'est qu'un sacrement parmi d'autres, et ce n'est pas le tout. Le tout. Pourtant, l'esprit est présent, puisque nous savons très bien que l'esprit est infusé dans l'eau baptismale. Donc celui qui est immergé dans l'eau baptismale, c'est-à-dire immergé dans la mort et la résurrection du Christ, est immergé dans l'esprit qui habite le Christ, dans l'esprit qui habite l'Église. Le principe de l'immersion, ça veut dire plonger, kufundare, je crois que vous dites en roumain, c'est ça, baptisine en grec, c'est ça, c'est immergé, c'est plongé, on est plongé dans l'eau, d'accord, mais on est plongé dans l'esprit qui habite l'Église. Hein, c'est le principe même de la vie chrétienne, c'est d'être en état d'immersion permanente, hein, c'est-à-dire d'oxygénation permanente, hein, et de natation permanente dans l'eau de la tradition ecclésiale, dans ce fleuve de la mémoire de l'Église, et dans ce fleuve de la vie du Christ. Et donc l'être humain, c'est très particulier, l'être humain baptisé vit, enfin, ou devrait vivre en tout cas, comme un poisson dans l'eau, si on peut dire, c'est-à-dire dans son milieu naturel, son milieu... Vous savez que c'est très intéressant que si vous sortez un poisson de l'eau, il meurt. Pour quelle raison? Je ne m'en parle pas de répondre immédiatement, je vous donne le temps de la réponse, mais il meurt parce qu'il s'asphyxie, en fait. Ce qui veut dire une chose tout à fait extraordinaire, c'est que le poisson ne respire que dans l'eau. Enfin, il ne respire pas, parce que vous avez déjà vu les carpes, quand les carpes baillent, elles ne respirent pas véritablement. Mais le poisson s'oxygène dans l'eau. C'est-à-dire que c'est l'eau qui est le vecteur de l'oxygène pour le poisson, à la différence de la plupart d'entre nous, oiseaux ou autres créatures terrestres et célestes. Vous savez très bien que nous oxygénons en respirant l'air de nos villes, même polluées, et il sert quand même à nous maintenir en vie. Mais le poisson, non. Or, c'est là que le poisson est vraiment le signe du chrétien, au sens où, de même que le poisson est oxygéné par l'eau dans laquelle il est immergé en permanence, parce qu'en principe, les poissons ne sortent pas de l'eau si souvent, encore qu'il existe des espèces... il existe des espèces de poissons qui sortent de l'eau par moment, bon, mais de même que le poisson donc s'oxygène dans l'eau, de même le chrétien s'oxygène dans l'état d'immersion continuelle auquel il est appelé à se trouver dans l'Église. Donc ça pour dire que le mystère du baptême en tant que mystère de l'eau, c'est aussi le mystère de l'esprit. Nous nous oxygénons dans l'eau, nous ne sommes pas noyés dans l'eau de l'Église, nous sommes vivifiés. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que quelquefois les parents ont une certaine appréhension quand ils voient des prêtres fougueux s'emparer de leur progéniture et les immerger promptement, ils ont l'impression qu'on va noyer leur enfant. Mais rassurez-vous, chers parents, vos enfants ne seront pas noyés, ils seront au contraire vivifiés. Même si, effectivement, il y a quand même un moment de passage de la mort à la vie qui est très fort et que l'enfant certainement perçoit à ce moment-là. Mais donc, le baptême d'eau, c'est aussi le baptême d'esprit, déjà. Donc, il faut faire extrêmement attention de ne pas dissocier excessivement l'immersion dans l'eau baptismale et ce qui va suivre. Toujours est-il que, depuis les origines, l'Église a connu un baptême d'esprit suivant le baptême d'eau, qui est lui-même baptême d'esprit, mais un baptême d'esprit, mais à travers lequel l'esprit est donné, non pas sous l'espèce de l'eau, mais il est donné sous l'espèce de l'huile. Et donc, si vous voulez, c'est un peu le même discours, c'est-à-dire que même que nous sommes, nous respirons le Saint-Esprit dans l'eau, nous oxygénons comme des bons poissons dans l'eau baptismale, qui est remplie du Saint-Esprit, de même, comme nous sommes moins de l'huile, en fait, nous sommes moins de l'Esprit. C'est-à-dire que le support matériel, le support de la créature, qui est l'eau, qui est l'huile, est un support qui est complètement pénétré par la grâce du Saint-Esprit, et que la grâce du Saint-Esprit, c'est une manière très extraordinaire, c'est-à-dire nous atteint à travers ce qui est corporel. Dieu nous atteint à travers le corporel, le corps de l'eau, ou le corps de l'huile, ou notre propre corps sont les véhicules, les véhicules, le mot me paraît un petit peu faible, mais enfin, disons le véhicule de la grâce que Dieu envoie vers nous. Donc, il y a donc ce deuxième grand sacrement de l'Église, le grand mystère de l'Église, si vous préférez le terme de mystère au terme de sacrement. Et c'est le mystère de l'Esprit. Or, ce mystère de l'Esprit dans la célébration est minuscule. Il est minuscule, il passe pratiquement inaperçu. C'est pour ça que je m'adresse à mes collègues et à moi-même en disant que nous pouvons faire attention à ce que cet office de la Sainte Chrismation apparaisse, ne soit pas noyé, c'est peut-être le cas de le dire, dans l'ensemble de la cérémonie. Parce qu'effectivement, chronologiquement, il dure très peu de temps. Il y a très peu de prières. Vous savez qu'il y a une prière que dit le prêtre avant de faire l'onction, au moment où il prend le Saint-Crème, l'ampoule, la bouteille du Saint-Crème, il dit une prière, il demande à Dieu, voilà, par ton Saint-Esprit, vivifie-nous, vivifie ceux qui ont été émergés, bon. Mais c'est une prière qui est relativement courte, ce n'est pas une épiclèse, puisque l'huile est déjà consacrée. Donc il n'y a pas de moment, c'est important ça, il n'y a pas de moment de consécration de cette huile. À l'inverse de l'huile des catéchumènes, par exemple. L'huile des catéchumènes, dans la partie précédente du baptême, est consacrée par le prêtre ou par l'évêque. Bon, pas forcément, quelquefois on garde l'huile des catéchumènes d'une fois précédente, mais il y a quand même une bénédiction sur l'huile prévue dans le typicon. L'huile du Saint-Crème n'est pas du tout dans cette catégorie-là. Elle n'est pas consacrée à ce moment-là. Il n'y a pas de consécration de l'huile du Saint-Crème dans le rite, alors que l'eau est consacrée, par exemple. L'eau qui va servir donc pour l'immersion du nouveau chrétien, l'eau est consacrée par le prêtre à ce moment-là. Elle est consacrée ou elle est consacrée quand on y verse l'eau du Jourdain, si vous préférez. Enfin, en principe, elle est quand même consacrée. On apporte une eau qui est une eau sauvage, et cette eau devient une eau sainte pour le baptême. Eh bien, le Saint-Crème n'est pas dans cette catégorie-là. Il n'y a pas de consécration du Saint-Crème. Le Saint-Crème est donné par l'Église au baptisé. Il arrive de l'Église vers le baptisé, et ce que l'Église envoie au baptisé, c'est justement la grâce du Saint-Esprit, qui n'est pas renfermée dans le sacrement, si vous voulez, mais qui est portée par lui, porteuse aussi de lui, véhiculée. Je n'aime pas ce mot-là, véhiculer, c'est un petit peu, un peu pauvre, oui. Transmise peut-être, voilà, oui. Transmettre est peut-être mieux que véhiculer, encore que ça veut dire un peu la même chose. Mais véhiculer, ça fait un petit peu véhicule, ça fait un peu objet extérieur, alors que transmettre, ça implique peut-être quelque chose qui ressemble plus à une transfusion, vous voyez. Donc il y a une transfusion, on va dire, ou une transmission, de l'Esprit Saint qui repose dans l'Église tout entière, à ce moment-là, au nouveau baptisé. Et c'est donc ce sacrement qu'on appelle l'onction, sacrement de l'onction, qui fait que l'homme devient un Christ second, parce que « oint » se traduit par « Christ » ou « Christ » se traduit par « oint ». Et dans « chrismation », vous entendez très bien qu'il y a la même racine que le mot « Christ », et que cette onction se caractérise par le fait qu'elle est parfumée, donc il y a aussi un honneur qui est apporté au nouveau baptisé, puisqu'on parfume, justement, on parfume les rois, on parfume les personnes d'importance, disons les acteurs, les actrices, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont très puissants dans ce monde, etc. Ils sont toujours parfumés par eux-mêmes ou par les autres. Donc le parfum a beaucoup d'importance, et le parfum s'adresse à l'odorat, c'est-à-dire s'adresse au sens qui est le plus connecté à la mémoire. Il paraît que ceci est très important. Je vous dis ce que j'ai appris. Donc l'odorat est le sens olfactif et le sens le plus coordonné à la mémoire, encore plus que le goût et les autres sens. Par exemple, les petits animaux reconnaissent leur mère à l'odeur. Et de même, un enfant, un bébé, reconnaît sa maman à l'odeur. Donc il y a quelque chose dans l'odorat qui est suscité justement par le sacrement de la crispation, qui est extrêmement important, c'est-à-dire qui coordonne ou qui connecte le nouveau baptisé à toute la mémoire de l'Église, cette mémoire dont justement l'Esprit-Saint est l'agent, est le vivificateur, le sanctificateur. Également, les paroles qui sont prononcées sont minuscules à côté des paroles qui sont prononcées pour l'immersion d'eau, qui est absolument éclatante et spectaculaire. La crismation n'a rien de spectaculaire. Je vous dis, ça passe absolument inaperçu. Les gens parlent entre eux, les gens parlent cadeau, on regarde la robe du nouveau baptisé, enfin bon, que Dieu nous pardonne. Et qu'est-ce qui est en train de se passer là? On est en train de dire, et le prêtre le dit si possible clairement, si possible distinctement, le sceau du don du Saint-Esprit. Donc là, il se passe quelque chose qui est extrêmement important. C'est un sceau. Tout le monde sait ce que c'est qu'un sceau. C'est un tampon, c'est une marque de fabrique, c'est une marque d'appartenance, c'est une marque de ratification d'un accord ou d'un contrat. Et c'est par le sceau que le nom de celui qui possède est marqué sur celui qui est possédé. Le nom du Christ, en quelque sorte, est imprimé en nous par cette onction et par ce sceau du Saint-Esprit. Donc là, ça, c'est ce qu'on appelle une consécration. C'est vraiment le sceau du don du Saint-Esprit qui accomplit la consécration. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une consécration? Je le rappelle, j'ai souvent l'occasion de reparler de cette notion qui est fondamentale. La consécration est consacrée à un objet ou une personne qui, ne sert que à une activité précise. Donc le baptisé est consacré, c'est-à-dire que sa vie, n'a plus d'autre sens que le Christ, l'Évangile, l'amour du Christ, l'amour de Dieu et la connaissance du Père. Un baptisé ne peut passer son temps ou perdre son temps à rien d'autre qu'à la vie en Christ. Il est consacré, il ne sert qu'à ça, comme on dit, pour les objets de tous les jours. C'est ça, je te consacre du temps, je te consacre ces fleurs, je te consacre un poème, je te consacre de l'argent, je te consacre mon amour, je te consacre le meilleur de moi-même, c'est-à-dire ce que je te donne, ce n'est qu'à toi, ce n'est que pour toi, ce n'est à personne d'autre. Et en particulier dans le domaine de l'amour, quand nous consacrons de l'amour à une personne, c'est-à-dire cet amour que nous vouons à cette personne-là, n'est qu'à elle. C'est comme si nous n'aimions qu'elle, que cette personne-là. Nous n'avons jamais aimé personne d'autre. Nous n'aimerons plus jamais personne d'autre qu'elle. Vous voyez. Donc il y a quelque chose d'exclusif, d'exclusif dans la consécration et qui a lieu à ce moment-là dans le sacrement de la chrismation. Et ce rite de la chrismation a comme particularité également qu'il est en fait comme je l'ai dit un peu juste précédemment, il est une pénétration, en fait, une infusion du Saint-Esprit dans la personne du baptisé, qui est un baptisé, puisqu'il vient d'être immergé. Mais dans celui-là ou celle-là qui vient de passer de la mort à la vie, en adhérant à la mort et à la résurrection du Christ, dans celui-là, eh bien, pour en faire un petit Christ, en quelque sorte, eh bien, l'Esprit-Saint va descendre, mais pas simplement à l'extérieur, pas seulement sur la tête, pas seulement pour le survoler, mais pour accomplir justement le mystère du Christ, qui est l'habitation du Saint-Esprit en lui. Quand sur l'icône du baptême du Christ, nous voyons l'Esprit voler au-dessus du Christ, c'est très bien, c'est vrai. Mais nous devons savoir que ce même Christ sur lequel l'Esprit repose est un Christ dans lequel l'Esprit habite. Donc c'est cette intériorisation de la grâce du Saint-Esprit qui a lieu par la chrismation. C'est vraiment extrêmement important. Et c'est pour ça que le vecteur de l'huile ou la transmission par l'huile est si important, parce que tout le monde sait que l'huile est un agent de pénétration. on met de l'huile dans les moteurs pour faciliter l'action des rouages, mais on met de l'huile aussi, par exemple, quand on veut faire pénétrer un médicament, un remède, on utilise l'huile comme, pas comme support seulement, mais comme véhicule, parce que l'huile pénètre la peau, l'huile entre dans la peau, l'huile se répand, elle graisse l'huile, si je peux dire, c'est-à-dire que s'il faudrait vraiment se laver très très fort avec du savon après, pour ne plus sentir cette graisse de l'huile. Or, vous savez que dans la Bible, la graisse est très très importante. La graisse, c'est ce qui fait la valeur des troupeaux, c'est ce qui fait la valeur des animaux bibliques dont parlent les psaumes. On parle des brebis grasses qui sont dans les champs, dans les montagnes. Et donc, l'huile du Saint-Crème, c'est aussi ce qui graisse l'homme en profondeur, c'est-à-dire qu'il lui donne sa valeur, sa richesse, sa beauté, son resplendissement également, parce que tout le monde sait très bien que l'huile, ça se voit dans la peinture à l'huile par exemple, que l'huile aussi fait resplendir, fait briller le visage, fait briller le corps, fait comme une lumière. L'huile va servir de support, oui, elle va servir de support à la lumière, ce qui est admirable, mais quelle lumière? La lumière de l'Évangile, évidemment, la lumière de Dieu. C'est extraordinaire de penser que l'Esprit-Saint a aussi ce rôle-là, vous voyez, de faire resplendir la lumière du Christ sur la face de ceux qui sont oints. Donc voici quelqu'un qui est oint de l'extérieur et pénétré en même temps par cette grâce du Saint-Esprit qui va habiter en lui. Donc vous voyez, le sceau du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement un tampon extérieur comme nous en mettons sur les lettres ou comme vous savez, ces sceaux en cire hein, qu'on mettait quelquefois pour cacheter. Ce n'est pas seulement un cachet, parce qu'un cachet, ça reste relativement extérieur, ça n'entre pas dans la lettre. Mais mettez de l'huile sur une lettre, vous allez voir que ça fait une tâche importante. Et que même l'intérieur, ça m'est arrivé récemment, c'est que j'avais mis dans une enveloppe un chèque pour une personne qui travaille chez nous. Et une amie a renversé sur ses enveloppes un peu d'huile. Elle m'a dit, zut, j'espère que ça n'a pas pénétré, parce qu'on pensait que le chèque aussi aurait été touché par l'huile. En fait, on a ouvert l'enveloppe très vite pour que le chèque ne soit justement pas rempli d'huile. Mais si on avait laissé faire, l'enveloppe elle-même et ce qu'il y a dans l'enveloppe auraient été complètement imbibés par cette huile. Parce que l'huile aussi a une caractéristique que j'aime beaucoup et qui entre justement dans le mystère de la chrismation, c'est que l'huile, comme on dit, elle fait tache d'huile. L'huile est un corps, est une créature qui se répand. Vous allez me dire, comme l'eau, je suis bien d'accord avec vous, mais justement, elles ont peut-être ceci en commun. Et l'eau et l'huile ont comme capacité, c'est qu'elles se répandent, qu'elles se communiquent, hein, qu'elles, je sais pas comment dire, qu'elles se propagent. Qu'est-ce qui se propage encore? Ben, le feu. Hein, donc si vous prenez de l'huile, prenez de l'eau, prenez du feu, vous avez ici des créatures qui ont comme caractéristique la propagation. La propagation, est-ce que c'est pas un beau mot, ça, le mot propagation? La propagation, c'est ça qui est demandé à un chrétien. De propager l'évangile, de propager la bonne nouvelle, de propager l'amour, de propager l'intelligence et la sagesse de Dieu, de propager l'intuition, de propager une humanité véritable, une vraie humanité, d'être des agents de la propagation de l'humanité du Christ. Donc c'est ça qui est... Or, le sacrement dit cela. Il le dit, et pas seulement il le dit, mais il le fait. Et justement, je dois beaucoup au Père Schmemann pour ça. L'intérêt principal, je pense, de l'enseignement du Père Alexandre, de bienheureuse mémoire, ce n'est pas les explications extrêmement brillantes qu'il donne, bien entendu que c'est vrai. Mais c'est surtout le fait qu'il a mis l'accent sur le réalisme sacramentel. C'est le plus intéressant. Le Père Alexandre est un théologien du réalisme sacramentel. C'est-à-dire qu'il écrit que pas seulement les sacrements expriment quelque chose, mais ils le font. Ils le font. Et que le mot symbole n'est pas une manière de... ne se rapporte pas, si vous voulez, à une manière de figurer un sens plus ou moins intellectuel. Mais non, pas du tout. Le symbole liturgique, il fait les choses. Ça a lieu. Effectivement, le sceau du Saint-Esprit est le moment où l'Esprit-Saint est infusé à la nouvelle créature, oui. Et c'est ce sens du présent sacramentel qu'on trouve chez Père Alexandre, que je trouve admirable et que nous devons retrouver aussi. N'accomplissons pas les rites comme des simples formes, comme des simples signes, comme des simples mementos d'actions passées ailleurs, ou je ne sais pas comment encore dire, mais accomplissons-les en esprit, en vérité, ayant la conscience que ça a lieu maintenant, ici et maintenant, ceci s'accomplit. Le prêtre ou l'évêque dit le sceau du don du Saint-Esprit et ceci s'accomplit, ceci est vrai. Amen. Et c'est pour ça que nous devons dire Amen. Si nous ne disons pas Amen, c'est que nous pensons à autre chose. Mais quand nous disons Amen, ça veut dire oui, effectivement, ça s'accomplit, ça a lieu. Comme dans la liturgie. Hein, la liturgie qui est un moment de consécration, de sanctification des dons, ben les fidèles, à un moment, répondent Amen. C'est-à-dire qu'ils ratifient le fait que ça a lieu, effectivement, à ce moment-là. Vous voyez, c'est le Amen souligne la validité d'un acte et le caractère présent de cette validité. Vous voyez, donc c'est... ceci est très très important pour ce qui est du réel, parce que finalement vivre en Christ c'est vivre dans le réel, c'est vivre dans la réalité, c'est passer de l'ombre à la lumière, c'est passer de l'illusion à la vérité, et c'est passer de l'inconscience à la réalité. Et je dis ça vraiment par expérience, parce que sans faire un roman, je peux dire que ma propre expérience de la vie se résume beaucoup à cela, c'est-à-dire à une grande difficulté à vivre dans le réel. J'ai quelques moments dans mon existence de réveil où je me rends compte de la beauté du monde, de la beauté des créatures, mais je me rends compte aussi de la mortalité, je me rends compte de mes fautes, de mes péchés, c'est ce qu'on appelle le repentir. C'est très rare le repentir, c'est rarissime, parce que c'est un moment dans lequel l'être humain entre dans le réel, et il est très rare que nous soyons dans le réel, très 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 rare, peut-être parce que nous ne le supportons pas, ou parce qu'en fait beaucoup d'éléments de notre vie sont faits pour vivre aussi bien que possible en dehors du réel. Au fond, nous arrivons à nous anesthésier assez facilement, et ça fonctionne, notre vie fonctionne assez bien, au fond, finalement, mais nous ne vivons pas dans le réel. La preuve en est, c'est que nous avons des regrets inutiles, d'ailleurs, quand nous sommes passés à côté de quelque chose de très beau, ou nous sommes passés à côté d'une très grande souffrance, ou nous sommes passés à côté d'un très grand amour, et nous se rendons bien compte que nous sommes passés à côté du réel. C'était là le réel, c'était là la vie, et je suis passé à côté, je ne l'ai pas vu. Ça me fait penser à un livre, c'est José Cabanis, un romancier contemporain. Ça m'avait beaucoup touché, ça. C'est le personnage d'un de ses romans, dont je ne me souviens plus du nom, pardon, roman de José Cabanis. Il conduit son ami, ou sa fiancée, ou je ne sais pas qui, une jeune femme, il la conduit à l'aéroport, en région parisienne, parce qu'elle doit partir pour un voyage. Donc il l'emmène en voiture, il garde sa voiture au parking de l'aéroport, il la conduit, et puis voilà, il lui dit au revoir, bisous, t'as tes affaires, t'as rien oublié, t'as ton bagage, t'as ton ticket. Et puis il s'en va, et il repart, il reprend sa voiture au parking, il se trouve à nouveau sur l'autoroute direction Paris. Et il se dit, zut, je ne l'ai pas regardé, je ne lui ai pas dit que je l'aimais. J'ai raté ce moment-là de son départ. Là, vous voyez, c'est très profond ces choses-là, vous voyez. Or, c'est ce qui nous arrive, c'est ça le drame spirituel de la vie. Le drame spirituel de la vie, c'est d'accomplir des actions, très bien d'ailleurs, le mieux possible, etc., mais de passer à côté du réel, alors qu'on l'avait à côté. Je pense aussi dans l'Évangile, c'est impressionnant quand même de voir ça, le nombre de fois dans l'Évangile, nous avons des cas de personnes qui ont croisé le Christ, qui lui ont même parlé, à qui le Christ a parlé, et qui repartent comme si de rien n'était. C'est hallucinant quand même. Ce personnage qu'on appelle le jeune homme riche, je ne sais pas s'il était si jeune que ça, mais enfin il était riche, qui vient vers le Christ, je ne sais plus ce qu'il lui dit, que dois-je faire pour être sauvé, que dois-je faire maître pour avoir la vie éternelle. Oui, bonne question. Bonne question. Et la seule réponse à cette question, c'est le Christ. Or, que fait ce garçon? Il fait un, comment dire, un, un, il il expose sa biographie de manière tout à fait pharisaïque. Il a accompli tous les commandements, il est un super juif, super chrétien, super tout. Bon, et puis, c'est tout. Et quand le Christ dit, écoute, c'est bon, maintenant tu laisses tout ça, tu viens avec moi. Tu me suis, viens. Et à ce moment-là, il est reparti. On dit qu'il était tout triste. Il est reparti tout triste car il avait de grands biens. Mais ça, je comprends un petit peu. Moi, j'aurais fait comme lui. Mais ce que j'espère ne pas faire comme lui, c'est passer à côté du Christ à ce moment-là. Parce que quand il disait « Maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» La réponse était le visage du Christ, c'était les yeux du Christ, c'était la parole du Christ, c'était la présence du Christ. Et c'est hallucinant de penser qu'il est reparti sans se rendre compte qu'il venait de croiser le Dieu homme, le Seigneur du monde, le Créateur du ciel et de la terre en personne. C'est hallucinant quand même. Et il y a plein d'exemples comme ça dans l'Évangile. Le nombre de personnes qui ont croisé le Christ dans la rue de Capharnaüm ou de Jérusalem et qui n'ont rien vu. Y compris Pilate, c'est hallucinant. Monsieur Pilate qui se trouve devant un monsieur Jésus qui lui dit directement ou indirectement qu'il est le roi des Juifs, qu'il est Dieu, etc. Que son royaume n'est pas de ce monde. Enfin, il lui dit des choses extraordinaires quand même. Mais Pilate, au revoir, à demain, je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Et puis je ne vais pas m'embêter avec vous surtout parce que je sens que ça commence à devenir compliqué. Et ma femme qui vient de téléphoner justement pour me dire, laisse tomber, ne t'occupe pas de ce juste. Donc sa femme lui avait envoyé un SMS à ce moment-là. Et Pilate se dit, on ne va pas s'embêter avec cette histoire. C'est un innocent, mais enfin un innocent de plus, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est terrible aussi. Le péché de Pilate, si vous voulez, c'est surtout d'être, encore une fois, d'avoir croisé le Christ sans s'y arrêter. Oui. Or, c'est le problème de Gilles, le problème de notre vie. Et donc, là, pour revenir à nos moutons, ce sacrement de la chrismation, il faut que nous arrivions à le célébrer en étant absolument conscients de ce qui se passe. Il se passe quelque chose. Et je tiens à le dire parce qu'une de mes amies, qui est pasteur de l'Église réformée, m'a dit, il y a un an ou deux, on avait une réunion à propos du baptême, et elle m'a dit, pour nous, je crois que je l'ai fait répéter, donc j'ai quand même bien entendu, elle m'a dit, pour nous, dans le baptême, il ne se passe rien du tout. Il ne se passe rien du tout. Elle m'a dit ça. Alors, ça ne veut rien dire, parce qu'il paraît que chaque protestant a une opinion strictement personnelle et individuelle. Donc on ne peut pas dire qu'elle ait parlé, même en tant que pasteur, qu'elle ait parlé pour sa communauté. Mais elle m'a quand même dit ça. Elle m'a dit, non, il ne se passe rien du tout. Le baptême, il ne se passe rien du tout. Alors que là, c'est vrai que la foi chrétienne fondamentale, dont nous essayons de vivre les mauvais orthodoxes que nous sommes, est une foi selon laquelle il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans la communion eucharistique, il se passe quelque chose dans l'immersion baptismale, et il se passe quelque chose quand le sceau du don du Saint-Esprit est imprimé sur le front, les yeux, les narines, les oreilles, la gorge, les mains, les pieds du baptisé. Il se passe quelque chose, il y a une infusion. Alors tout ça pour dire que si nous prenons au sérieux le rite du Saint-Baptême et de la chrismation, comme nous y sommes invités quand même, et bien ça débouche sur une réalité, c'est que la personne célébrante, le chrétien lambda dont je suis, et qui vient à l'église, qui s'approche des icônes, qui fait le signe de la croix, qui s'incline, qui va chanter, qui va suivre l'office, qui va répondre à l'office, qui va participer à l'office, qui va être activement célébrant, ce chrétien-là, il l'est d'autant plus qu'il est lui-même déjà consacré par l'Esprit, infusé par l'Esprit, rempli du Saint-Esprit. C'est en tant que pneumatophore que nous venons à l'Église. Alors pneumatophore, je dis, encore un grand mot, vous les orthodoxes, vous avez toujours des gros mots à la bouche. Qu'est-ce que vous pouvez grossier, les orthodoxes, avec vos mots qui débordent? Et écoutez, c'est un très beau mot, pneumatophore, c'est un très beau mot. Ça veut dire porteur de l'esprit. Théophore, ça veut dire porteur de Dieu. Photophore, ça veut dire porteur de lumière. Je ne vous parle pas des doryphores et autres animaux, mais c'est un mot qui signifie qu'on est porteur de quelque chose. Christophore, porteur de Christ. C'est des prénoms quand même chez nous, Christophe. Porteur du Christ, Théophore, porteur de Dieu, et Pneumatophore veut dire donc porteur de l'esprit. Eh bien, c'est en tant que pneumatophore et que Christophore, d'ailleurs, que le baptisé lambda, mais oui, monsieur tout le monde, madame tout le monde, bébé tout le monde, baptisé tout le monde, vient à l'église et participe à la liturgie. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça, j'ai déjà parlé de ça, je pense, dans un autre cours. C'est ce qui fonde la compétence liturgique du chrétien. Sa compétence liturgique ne vient pas simplement d'une instruction, de la catéchèse, par exemple, qui est tout à fait utile et recommandée, évidemment, on va pas dire, c'est pas moi qui vais dire du mal de la catéchèse, mais la notion de compétence ne dérive pas d'une conception intellectuelle de la conscience chrétienne. La notion de compétence, elle dérive essentiellement de la foi que nous avons dans l'habitation du Saint-Esprit, dans la grâce du Saint-Esprit en l'être humain. Vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce qui rend un homme compétent? C'est qu'il est consacré à une activité. Mais même dans le monde professionnel, par un bon garagiste, parlons-en, parce que ça nous concerne tous, un bon garagiste, mais c'est un homme qui, on dit, il est compétent. Mais il n'est pas compétent uniquement parce qu'il a étudié, parce qu'il a un CAP de mécanicien, encore que c'est tout à fait nécessaire, parce que le CAP est une bonne chose, mais il est compétent parce qu'il a une telle expérience, un tel vécu, il a un tel, une telle familiarité, une telle complicité avec les moteurs, avec les boulons, avec les bielles, avec les carters, avec les pistons, je vous en passe. Il a une telle familiarité qu'il en vit de ça, vous voyez. Il en vit parce que, les moteurs, ça le connaît, comme on dit, vous voyez. Parce que, et ça, c'est vrai pour tous les métiers. Regardez les gens qui s'occupent de chevaux, comme ils ont une compétence, c'est étonnant, ils ont une manière de prendre l'animal, ils savent, c'est pas seulement parce qu'ils ont fait des études, vous voyez, c'est autre chose. La compétence, c'est ce qui s'acquiert par la vie. Et donc, la compétence du chrétien, elle s'appartient, elle s'acquiert aussi par la vie de l'esprit en particulier, mais aussi par notre vie quotidienne. C'est vrai que, année après année, notre compétence augmente, de même que année après année, la compétence d'un bon artisan, d'un bon ouvrier s'augmente. Pensez bien qu'un gars qui est mécanicien depuis 40 ans, il en sait plus que le jeune qui vient d'avoir son CAP avant-hier, bien entendu. Et donc notre vécu liturgique, notre vécu ecclésial forge en nous une compétence, mais une compétence qui vient de l'expérience, qui vient du vécu et qui vient du travail de l'Esprit en nous. Du fait que là, cette grâce du Saint-Esprit qui a été infusée en nous au moment du baptême, et dans le baptême, dans la chrismation surtout, cette grâce, si vous voulez, se manifeste comme expérience, comme connaissance pratique, comme intelligence, comme sagesse, comme vigilance, je dirais comme sagacité. J'aime beaucoup le mot sagacité, ça veut dire cet éveil de l'intelligence toujours prête à répondre à la question du moment, à inventer quelque chose. Vous voyez, un bon garagiste, si je peux dire, il se trouve pas en panne devant un moteur. Vous voyez, vous lui apportez votre problème, vous n'arrivez absolument pas à le résoudre, lui voit tout de suite ce qu'il faut faire, vous voyez. Pas un problème, il n'est pas en peine. Et de même, le chrétien, liturgiquement, a une compétence de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas en peine pour se présenter devant Dieu, il n'est pas en peine pour le prier, pour lui parler. Ça m'a frappé dans la vie de Sainte Marie l'Égyptienne, par exemple. Sainte Marie l'Égyptienne, dans la vie qu'on lit d'elle dans le Synaxaire, nous rapporte une prière qu'elle a improvisée quand elle s'est trouvée devant l'icône de la Mère de Dieu à Jérusalem, sans oser entrer vraiment dans l'église de l'Anastasie, je crois, si je me souviens bien. Eh bien, elle a improvisé une prière. C'est étonnant. C'est-à-dire que cette fille, qui était une courtisane, enfin bon, on connaissait sa vie, qui n'a pas été beaucoup à l'église ni au catéchisme, enfin, mais qui venait probablement quand même d'une famille chrétienne d'Alexandrie, et qui était quand même baptisée, qui était quand même ouinte, eh bien, elle avait une compétence. Et cette compétence, elle l'a manifestée en s'adressant à la Mère de Dieu d'une manière très très profonde dans la prière qui nous est transmise, qui a peut-être été, peaufinée, développée par les bibliographes, mais ce n'est pas sûr. Pourquoi est-ce que cette prière ne serait pas vraiment à elle? Ce qui veut dire que la grâce du Saint-Esprit travaillait en elle. Elle n'avait pas de livre, l'histoire ne nous dit pas qu'elle tira de son sac un livre un livre de prière de la métropole roumaine, je ne sais pas où, qu'elle avait acheté récemment à la table d'offrande. Pas du tout. On a dit que, se trouvant devant l'icône de la Mère de Dieu, et se trouvant démunie et désemparée de ne pas pouvoir entrer dans l'église à cause de ses péchés, elle s'est adressée à la Mère de Dieu d'un cœur pur et avec des mots extrêmement justes, demandant à la Mère de Dieu de lui permettre de se convertir, de lui permettre de se repentir, de lui permettre de se confesser. C'est assez étonnant. Donc la compétence du chrétien se manifeste aussi par la faculté d'improvisation. Mais elle se manifeste beaucoup par le fait que le chrétien va célébrer comme s'il improvisait. Je pourrais citer des noms de prêtres, d'évêques ou de fidèles qui me donnent cette impression-là. Je ne peux pas être indiscret en nommant les gens dans un cours, mais je suis frappé quelquefois de trouver que certains de mes collègues ou certains de mes frères, ils sont là dans l'église, ils célèbrent la liturgie de Saint-Jean-Chrysostome, de Saint-Basile ou Vêpres, Matines, je ne sais pas quoi, mais on a l'impression qu'ils ont fait que ça toute leur vie, qu'ils connaissent ça par cœur. Ils regardent la paix, ils regardent le livre un peu du coin de l'œil pour ne pas se tromper complètement, mais ça coule, hein. C'est magnifique de voir ça, oui. C'est magnifique de voir ça chez des évêques, chez des prêtres, chez des fidèles, chez des diacres aussi. On rappelle avoir un très très bon diacre dans certaines églises, mais il regardait jamais un livre. Hein. Jamais. Il avait tout mémorisé, tout dans le. Pas dans la tête, dans le corps. Hein. Et ça, c'est cette compétence, mais ça vient du travail du Saint-Esprit. Donc, si vous voulez, le chrétien est compétent, et c'est pour ça qu'il y a un ministère des laïcs. Hein. C'est assez important, ça aussi, vous voyez. On peut parler du ministère des laïcs. C'est le père Afanassiev qui en parle, je crois, surtout. Voilà, le père Nicolas Afanassiev, il a un chapitre entier dans son livre que je cite souvent, qui s'appelle « L'Église du Saint-Esprit », justement. Un chapitre qui est le chapitre 3, et qui s'appelle « Le ministère des laïcs ». Mais ce ministère des laïcs suppose quelque chose qu'on va appeler comme une ordination, vous voyez. Essayons de considérer, si vous le voulez bien, que le baptême et la chrismation qui suit immédiatement constituent une ordination au sacerdoce royal, au sacerdoce universel, au sacerdoce du Christ, vous voyez. C'est ça qui se passe, c'est-à-dire la preuve en est que le rite qui suit va être un rite de procession, de triple procession autour de l'évangile et du baptistère, bien sûr, et qui est tout à fait analogue au rite de l'ordination de l'évêque, du prêtre ou du diacre, et qui est également analogue au rite du couronnement chez les époux, ce qui veut dire que le rite du couronnement serait, si vous me permettez cette proposition, serait en fait une ordination au sacerdoce conjugal. Enfin, laissons cela pour le moment. Parlons simplement du sacerdoce de tous dans la célébration, et c'est pour ça qu'on veut parler du ministère des laïcs. Le mot ministère veut dire service. Et ça veut dire que les laïcs dans l'Église, ils servent, mais ils ne servent pas, si vous voulez, comme on officie une activité professionnelle, parce qu'on est payé plus ou moins bien, et qu'on a effectivement une compétence issue des études. Le ministère, c'est tout à fait autre chose. L'idée de ministère dans l'Église, c'est une idée d'une activité qui manifeste la grâce du Saint-Esprit, qui n'est possible que par la grâce du Saint-Esprit, et qui est remplie de la grâce du Saint-Esprit, et qui est éloquente, hein, qui doit éloquemment être le signe du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nos paroles doivent être des paroles inspirées par l'Esprit, nos gestes, nos actions, nos déplacements même dans l'église ou au cours de l'office, notre façon d'allumer un ciel, notre façon de vénérer les icônes, notre façon de faire le signe de la croix, doivent être éloquemment inspirées par le Saint-Esprit. En voyant telle femme, tel enfant vénérer l'icône, je dois voir combien l'Esprit les habite. Et je peux vous dire que c'est mon expérience. Je me rappelle d'avoir été, il y a longtemps maintenant, quand j'ai commencé à aller en Roumanie, dans les monastères roumains, de Moldavie, partout de Bukovine, je ne me souviens plus. Je ne sais plus dans quel monastère roumain c'était. Et que c'était Moldovissa, c'était Suceava. Non, Suceavissa plutôt, le monastère bleu. Enfin, un de ces monastères de femmes, vous avez de. Et j'étais dans l'église, et entre, alors que j'y étais déjà, comme monsieur l'office, entre trois jeunes moniales, silencieusement, elles n'ont l'air de rien du tout, enfin, sans dire un mot évidemment, et elles vont vénérer l'icône, ou les icônes, mettre. Et j'étais saisi à ce moment-là par la grâce de leur gestuelle, de leur comportement, de leur attitude, ce qu'exprimait leur corps dans ces prosternations qui, tout à fait conventionnelles, au fond, tout simplement parce qu'on doit faire dans l'église, si vous voulez. Les filles n'avaient aucune prétention à exprimer quoi que ce soit de personnel, ni leurs sentiments, ni rien de tout ça, si vous voulez. Elles exprimaient le comportement sacerdotal de l'église, mais d'une manière magnifique. Et c'était, ça irradiait, leur gestuelle irradiait la grâce du Saint-Esprit qui était en elle, une beauté, une grâce. Il y a quelque chose de, c'est un très beau mot en français. Le mot, on a le mot grâce, mais on dit que quelqu'un est gracieux, qu'une femme est gracieuse. Quelque chose de gracieux, un geste gracieux. Un geste gracieux, c'est pas un geste élégant selon l'esthétique du monde. C'est pas un geste séduisant. C'est pas un geste par lequel on cherche à se faire remarquer. C'est pas ça un geste gracieux. Un geste gracieux, c'est un geste qui est plein de grâce, hein, comme la Mère de Dieu. La Mère de Dieu est gracieuse. C'est pour ça que l'ange lui dit, réjouis-toi pleine de grâce. Gracieuse. C'est-à-dire, c'est une forme de beauté qui n'est pas une beauté esthétique, qui est une beauté lumière, une beauté irradiation, une beauté communicative aussi. C'est difficile de dire les choses. Qu'est-ce qui est gracieux ? Ben, c'est ce qui se rapporte à la grâce. On parle de la grâce d'une belle journée, par exemple. Un jour qui se lève avec une belle lumière, avec quelque chose de... une journée qui commence comme ça, par là. C'est comme si c'est difficile. Ça touche à la légèreté, à la facilité, à l'aisance, à la beauté, oui, à la beauté esthétique aussi. À la transparence, je pense qu'il y a dans la grâce l'idée ou l'expérience, plus exactement, d'une transparence à une puissance très douce, invisible, une puissance sans puissance, une puissance très humble, une légèreté, mais quelque chose d'inoubliable. Vous voyez, là, je ne parle pas seulement de la grâce des êtres humains, mais de la grâce de la nature, des créatures. Il y a des moments aussi dans la vie comme ça où on est saisi par la grâce de toute chose. Le monde est gracieux, les gens sont gracieux, les animaux aussi sont gracieux. Il y a certains animaux tellement élégants dans leur comportement, les oiseaux, les biches, des bébés animaux aussi, c'est étonnant. Le caractère gracieux des très jeunes animaux, ça arrête l'attention quand même, vous voyez, on s'arrête, parce qu'on est arrêté, quelque chose dans notre action est suspendu à ce moment de grâce. Eh bien, c'est ça que je peux dire de ce que j'ai vu, et souvent, je veux dire souvent, dans le peuple orthodoxe, le peuple roumain, que je connais peut-être mieux qu'un autre, je ne sais pas, mon attention a été retenue, et mon souffle même suspendu, par le côté extrêmement gracieux du comportement. Je me rappelle comment, ben je peux le nommer parce qu'il est décédé, comment le père Sofiane célébrait, par exemple. Père Sofiane, je me souviens très bien, je ne connaissais pas cet homme. J'entre dans l'église du monastère intime à Bucarest, j'attendais quelqu'un, je crois, ou quelqu'un m'attendait, et je vois un monsieur tout blanc, comme s'il marchait sur des roulettes, ou c'est des coussins d'air, glissant dans l'église, comme ça, d'une manière très douce, très légère, sans aucun effort, sans aucune crispation, sans aucun heurt, d'une manière absolument naturelle, et surtout, et qui encensait de manière très simple, très naturelle, mais organique, et tout ça de manière gracieuse aussi. La façon dont le père Sofiane encensait, je suis sûr que peut-être que personne ne le remarquait, parce qu'on voyait ça tous les jours. Vous savez, les gens disent, oh là là, tout le monde boit ça, il n'y a rien d'extraordinaire, qu'est-ce que c'est là de me faire du fromage avec ça. Eh bien écoutez, je peux vous dire que la façon d'encenser de ce père Sofiane, c'était quand même inoubliable, de beauté. Je pense qu'effectivement, quand on dit gracieux, on pense à la beauté quand même. Il y avait une beauté, la beauté de ce vieillard, ce très, très beau vieillard, tout blanc comme ça, avec un vêtement clair. Je me rappelle, il avait ce vêtement liturgique un peu usé, bleu ciel, je me rappelle. Bon. et sa façon de recenser, c'était une façon de parcourir l'espace sans effort, un peu angélique au fond, un peu, oui, comme je vous dis, porté plutôt que marchant, comme s'il était supporté par une autre force que lui-même. Donc c'est ça qu'on appelle gracieux, et c'est ça qui caractérise le ministère des laïcs. Voilà, donc je m'arrête un peu sur ce thème du ministère des laïcs tel qu'il est présenté par le père Afanassiev dans son livre sur l'Église du Saint-Esprit. Je dois dire que cette expression, c'est une parenthèse encore une fois, pardon, cette expression « l'Église du Saint-Esprit » m'a souvent un peu gêné, parce que je trouve que c'est pas très juste de dire ça. Après tout, l'Église est l'Église du Christ, qu'est-ce qu'il a à nous dire autre chose. Mais je pense que ce que montre très bien dans son livre le père Nicolas Afanassiev, ce qu'il montre, c'est que justement, ce qui fait l'Église, en plus bien sûr de la foi, mais la foi en elle le signe aussi, c'est la présence du Saint-Esprit. Et donc l'Église est l'Église du Saint-Esprit dans la mesure où sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'Église du tout. Et qu'elle ne peut même pas être l'Église du Christ si elle n'est pas l'Église du Saint-Esprit. Alors, donc il parle du ministère des laïcs, il appelle ça ministère des laïcs, ministère du peuple de Dieu. Ça, c'est peut-être la définition initiale qu'il faut retenir. Et c'est ça caractérise justement l'activité liturgique, c'est que le ministère des laïcs n'est pas un ministère individuel ou solitaire de l'un ou l'autre d'entre nous, mais il est un ministère commun. C'est ce qu'il dit, page 67. Le sacerdoce royal des fidèles consiste en leur ministère commun, où chacun officie ensemble avec tous les autres. Aussi, le ministère des laïcs cesse-t-il dès qu'il n'est plus commun. Chaque fidèle se tient devant Dieu en tant que liturge, mais seulement pendant que toute l'Église est réunie, c'est-à-dire quand le peuple de Dieu, réuni par Dieu, sert Dieu. Donc, c'est assez important. Donc, le ministère des laïcs, si vous voulez, il existe en tant que ministère du peuple de Dieu. C'est-à-dire que ça n'a aucun rapport, si vous voulez, avec des formes d'individualisme religieux qu'on pourrait remarquer dans telle ou telle occasion. Et ça, c'est très 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 important. Vous voyez, il faut le retrouver aussi, parce que c'est aussi cela, retrouver la place du Saint-Esprit dans l'Église et dans le culte. J'ai retrouvé le fait que nous agissons ensemble, que le culte chrétien se définit par un « nous ». Ça se voit par exemple dans le Te Deum, « nous te louons, ô Dieu ». Ou bien dans beaucoup des prières, « nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, car tu nous as fait lever de notre couche et tu as mis sur nos lèvres une parole de louange pour adorer et invoquer ton Saint-Nom ». C'est une des prières de l'Office de Matines. Le « nous » dans l'Église est extrêmement important et est pratiqué majoritaire. Il y a de très rares moments où c'est la première personne du singulier qui est employée. Je crois qu'elle est employée pour le credo. Je crois. Mais je ne vois pas tellement. Oui, après la prière avant la communion, je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu en ce monde sauver les pécheurs. Bon, je suis le premier. Donc là, il y a quelque chose d'assez, c'est le singulier ici qui se manifeste. Mais faites attention à cela la prochaine fois que vous participerez à la liturgie. Faites attention à l'alternance harmonieuse entre nous et je. C'est très instructif d'observer cela. Donc en tout cas, ce que souligne ici le père Afanassiev, c'est le caractère donc commun. L'Eucharistie, dit-il, page 65, c'est la liturgia accomplie par le peuple de Dieu réuni dans le temple du corps du Christ par Dieu lui-même. Vous voyez ici c'est page 66, c'est intéressant ce qu'il dit là. Il dit de même que dans l'Ancien Testament, c'est une citation de l'Épître aux Hébreux, tout prêtre se présente chaque jour pour remplir son ministère, fin de citation, c'est Hébreux 10:11. Dans le Nouveau Testament, chaque fidèle se tient devant Dieu en tant que prêtre, liturgos, dans l'assemblée eucharistique. La vie entière du croyant, continue Père Afanassiev, la vie entière du croyant est culte, latreia, incessant de Dieu, et son ministère spécial s'exerce dans l'assemblée eucharistique, par laquelle tout commence, dans laquelle tout s'achève, et d'où dépend tout ministère dans l'Église. Alors ça, c'est intéressant parce que il faut le rappeler, ça. Il faut dire qu'en fait, tous les sacrements de l'Église sont accomplis par toute l'Église. Nous parlions du baptême tout à l'heure, nous parlions de la crispation, nous parlions de l'Eucharistie, nous parlions de tous les actes importants qui sont accomplis par l'Église supposent la présence de l'Église. Ce n'est pas le prêtre qui baptise, ce n'est pas le prêtre qui oint, ce n'est pas le prêtre qui consacre, vous voyez, quand même. Je pense qu'il faut quand même retrouver, rajeunir notre connaissance de l'Église et de la liturgie en sortant de certaines interprétations cléricales des sacrements, qui est vraiment une hérésie grave, vous voyez. Le prêtre dans son ministère spécial n'a pas de pouvoir personnel pour faire les choses, vous voyez. Et la preuve d'ailleurs en est qu'il ne dit pas « je » non plus, il ne dit pas « je te baptise ». Il dit « le serviteur de Dieu, un tel, ou la servante de Dieu, une telle, est baptisé ». Vous voyez, c'est quand même important ça. Donc ça veut dire qu'il y a une action du Saint-Esprit dans l'Église et par l'Église qui accomplit les mystères de l'Église et qui l'accomplit quand nous sommes réunis. Quand nous sommes réunis. C'est pour ça que ça revient à ce que j'ai dit dans les cours précédents, que l'Église est convoquée par le Saint-Esprit. Elle est appelée par le Saint-Esprit. C'est ayant répondu à cet appel de l'Esprit que l'Église peut célébrer. Et donc, vous voyez aussi, donc ça c'est important, parce que ça c'est pour la théologie du Saint-Esprit, que d'une part, chaque personne est investie de la grâce du Saint-Esprit, non seulement par le baptême, mais surtout par la Sainte Chrismation. Mais en plus, chaque personne étant coordonnée et en communion avec les autres personnes de la communauté, l'Esprit Saint passe entre elles, passe de l'une à l'autre, parce que l'Esprit est l'Esprit de la communion. Et cette communion du Saint-Esprit qui se réalise et qui en se réalisant forme l'Église en tant qu'assemblée liturgique. Et que dirais-je de l'Eucharistie dont j'ai peu parlé jusqu'à présent? On va y revenir aussi tout le temps. L'Eucharistie comme sacrement de l'Esprit. Mais vous savez ça, ce qu'il faut redire, que les dons ne seraient pas ce qu'ils sont s'ils n'étaient pas consacrés et sanctifiés par la descente vertigineuse de l'Esprit. Et que les dons ne seraient pas ce qu'ils sont s'ils n'étaient eux-mêmes remplis du Saint-Esprit. L'Eucharistie ne serait pas ce qu'elle est si nous ne communions pas au Saint-Esprit quand nous communions au corps et au sang du Christ. Tout de même, quand on dit « je crois et je confesse, Seigneur, que tu es... » Bien sûr, nous communions au corps et au sang du Christ, bien entendu, mais nous communions au corps du sang du Christ remplis du Saint-Esprit. Nous communions à l'Esprit du Christ. Nous communions à l'Esprit Saint qui repose dans l'Église. Nous communions à l'Esprit Saint qui est descendu. Nous communions à la Pentecôte liturgique qui vient s'accomplir, car toute liturgie eucharistique est une liturgie pentecostale. Bon, ça se voit, ceci est tout à fait vrai, puisque ça se voit, par exemple, quand c'est un évêque qui préside, vous savez très bien, ou est-ce qu'il faut que je vous le rappelle, que le tropaire qui est chanté pendant la liturgie, après l'entrée, c'est le tropaire de la Pentecôte. Béni sois-tu, ô Christ, notre Dieu, qui a rendu maîtres en sagesse de simples pécheurs, leur envoyant l'Esprit Saint, et par reprenant au filet l'univers entier. Ô ami de l'homme, gloire à toi. Ça, c'est le tropaire de la Pentecôte. Il est chanté toujours, en principe, quand c'est l'évêque qui célèbre. Ça veut dire que dans la liturgie pontificale, qui est la liturgie type, et la mention de la Pentecôte est quand même objective. On le chante ce tropaire, même quelquefois plusieurs fois, pendant que l'évêque encense. Parce que l'évêque étant entré, il encense l'autel, l'iconostase et l'ensemble de l'édifice, je crois, pendant qu'on chante le tropaire. Oui. Donc la liturgie est pentecostale. Je regarde qu'est-ce qui est à prendre encore dans notre bon père Apanassieff. Oui, il dit quelque chose qui est important. Il dit qu'en fait, c'est l'enjeu et du baptême et de la chrismation, c'est justement la célébration. Que nous sommes baptisé, c'est-à-dire immergé dans l'eau du Jourdain, et infusé de l'Esprit-Saint par la chrismation, pour cela, pour célébrer, pour participer à l'Assemblée Eucharistique, et pour que l'Assemblée Eucharistique ait lieu. Car elle ne peut pas avoir lieu si nous sommes absents, si les membres du corps du Christ sont absents. Et là, ce n'est pas ce que quelqu'un a dit l'autre jour, mais ce qui est vrai d'ailleurs, on est baptisé et chrismé pour communier. Je suis d'accord avec vous. Mais la communion n'est pas non plus un moment isolé du reste. Ce qui nous rend aptes à communier, c'est la célébration. Les cas où la communion peut être donnée à quelqu'un sans qu'il ait célébré sont très rares. Il s'agit de personnes souffrantes, immobilisées chez elles par la maladie, ou de prisonniers immobilisés dans la prison par la détention. Mais justement, j'en profite pour le dire, ça je le dis à mes collègues, on ne doit pas, ça n'a aucun sens, de donner la communion à quelqu'un, comme je l'ai vu faire récemment, après la liturgie. Une fois que la liturgie est terminée, je vois un de mes collègues que j'aime beaucoup et qui est meilleur que moi, je vous assure, je le vois accueillir une femme qui était d'une santé éclatante. Il accueille cette jeune femme, elle se confesse, je le vois de loin mettre l'étole, et donc je pense dire la prière d'absolution certainement, et donc je regarde cela calmement, la liturgie étant terminée, tout le monde était déshabillé, tous les prêtres avaient enlevé leurs ornements sauf ce prêtre-là, et après leur donner l'absolution, je le vois entrer dans l'autel, sortir de l'autel, et donner la communion à cette dame, qui est certainement tout à fait méritante, une sainte personne, c'est pas ça la question, mais je me suis demandé qu'est-ce qu'on faisait là au fond. Et je me suis demandé s'il n'avait pas devant les yeux le spectacle d'une dégradation quand même de la célébration liturgique. C'est-à-dire brusquement une communion eucharistique qui est déconnectée. Mais oui, c'est ça que je suis en train de dire. Une célébration, une participation à l'eucharistie qui est déconnectée de la célébration. Déconnecté de la célébration. Vous voyez ? Et c'est pas un problème de sens, si vous voulez, c'est un problème de réalité. Je pourrais dire que ça n'a pas de sens, ça me coûterait rien du tout, mais je pourrais l'expliquer que ça n'a pas de sens. Mais c'est pas ça le problème, c'est que ce n'est pas réel, hein. C'est un problème de réalité, c'est pas un problème de sens. C'est que la communion eucharistique, elle appartient à une réalité qui s'appelle la célébration, qui s'appelle la concélébration, qui s'appelle le fait de participer ensemble avec le Christ à la consécration des saints dons. Et c'est pour ça qu'une personne qui arrive après la consécration ne peut pas être reçue à la communion eucharistique. Sauf, certificat médical, rapport de police, attestant qu'elle a subi un accident de la circulation et qu'elle n'a pas pu venir plus tôt. Enfin bon, voilà, c'est autre chose. Si c'est des mesures d'économie, on ne parle pas de ça ici. Et sauf maladie, bien entendu. Et encore, quand les prêtres, les évêques apportent le bon Dieu, comme on dit, apportent le corps et le sang du Christ à des malades retenus chez eux, il serait bon, mes bons pères, il serait bon que vous disiez l'évangile, que vous lisiez l'évangile, et pas seulement dire les prières, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais dire l'évangile, chanter le Trois Pères du jour, qu'il y a un minimum de célébration avec ces personnes qui n'est peut-être pas mourante, quand même n'exagérons rien. Bien sûr, si la personne est à l'article de la mort, je n'en parle même pas, vous savez ce que vous avez à faire, mes bons pères. Mais quand même, la plupart des cas, comme nous allons à l'hôpital, ce sont des personnes qui ont encore un petit peu de temps devant elles, et on peut passer 10 minutes, un quart d'heure, ce serait du luxe, je ne vous parle pas d'aller au-delà d'un quart d'heure, mais un quart d'heure où on va prier avec la personne, et vous voyez, il va y avoir un petit quelque chose de célébration, une prière que la personne va dire, elle va écouter l'évangile, elle va faire son signe de croix, on va la solliciter. Voilà, il y a une sollicitation de la part du prêtre ou de l'évêque, on va solliciter la personne pour qu'elle puisse être reconnue comme célébrante, pas comme consommatrice. Vous voyez la différence ? Je suis sûr que vous voyez la différence. Je suis sûr que tout le monde voit la différence. Alors justement, c'est le même père, je crois que c'est encore le père Schmemann, vous allez me dire décidément, je suis un schmemanniste avéré. le père Schumann disait des choses magnifiques, qui m'a fait, enfin, je trouvais magnifique, je me suis senti extrêmement intelligent en l'entendant, parce que brusquement j'avais l'impression de comprendre. Il dit que le péché d'Adam consiste à passer à, comment dire, à renoncer à la célébration pour se contenter de la consommation. Et j'ai trouvé que c'était très intelligent. C'était très intelligent. Donc finalement, il y a une certaine vigilance à avoir, et donc nous devons prendre au sérieux ce que dit le père Nicolas Panassev ici, page 67, quand il dit, je lis la phrase, vous allez voir, c'est très instructif, je regarde là pendant que j'y suis. Nous avons tout lieu de croire que l'établissement du nouveau baptisé dans le ministère du sacerdoce royal avait lieu en vue de l'assemblée eucharistique. Il continue en disant, le sacrement du baptême par l'eau et l'esprit était suivi de la première concélébration dans la liturgie eucharistique. Vous entendez bien ça? Donc ça veut dire que notre façon de célébrer encore aujourd'hui, nous pouvons y retrouver toute la jeunesse du Saint-Esprit si nous suivons cet ordre. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant est baptisé, quelqu'un est baptisé, et bien ce baptême va continuer par la célébration liturgique dans laquelle le nouveau baptisé, même si c'est un bébé de 40 jours, ce qui est le minimum, il va être considéré comme célébrant, comme concélébrant et comme communion, mais pas communion à titre privé. Il va communier à titre commun, il va communier à titre communautaire. Alors c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle il est encouragé autant que possible, bien entendu, à célébrer le Saint Baptême et la Chrismation en relation avec la liturgie. Soit pendant la première partie de la liturgie, c'est simple à faire, c'est vraiment archi simple, il suffit d'enlever toute la première partie de la liturgie qui s'appelle la liturgie des catéchumènes pour la remplacer par la célébration du sacrement. Ça, c'est archi simple. Et donc, on voit très bien à ce moment-là que la place du nouveau baptisé est dans l'assemblée liturgique. Que ce soit un bébé, que ce soit un adulte. Oui. Et faire autrement, bien sûr, on peut faire autrement, on peut faire des baptêmes à d'autres moments. Je sais bien que nous faisons ce que nous pouvons, en paroisse en particulier, mais il faudrait quand même que la communion eucharistique suive. Ou alors, ce que font certains de mes collègues, qui n'est pas si bête, ils célèbrent un baptême et donc une chrismation le samedi après-midi, c'est assez fréquent, et ils exigent des parents, des parrains, etc., qu'ils reviennent le lendemain, dimanche matin, donc pour participer à la liturgie, et que le nouveau baptisé donc communie, mais pas de manière privée, mais qu'il communie de manière communautaire. Ça, je trouve que ce n'est pas si mal que ça, vous voyez. Pas si mal que ça, et c'est quand même faisable. Alors vous allez me dire, oui, mais ils habitent à 2 heures de voiture, ils ne reviendront pas. Bon, c'est un autre problème. On va voir ce qu'on fait. Mais il faut essayer toujours, dans la pratique pastorale, la pratique liturgique de nos paroisses, essayer toujours de tendre vers le réel de l'Église, le réel de la présence du Christ par le Saint-Esprit. Donc vous voyez, c'est intéressant ce que dit notre bon Père. Acte liturgique, je reprends, l'Eucharistie est un ensemble qui comprend nécessairement tant le ministère de tous les fidèles que de celui du proestos, c'est-à-dire celui qui préside. Hein, parce qu'au fond, le père Afanassiev fait allusion au fait que dans l'Église ancienne, il y avait deux ministères en présence dans l'Église, le ministère du peuple et le ministère de celui qui préside. C'est tout. C'était l'évêque et le peuple. Rappelez-vous, ceux qui ont suivi ces cours, vous avez expliqué ça à propos des textes de Maxime Kovalevski. Et donc les autres ministères, la prêtrise en particulier, le diaconat aussi, et puis alors, bien sûr les chantres, tous des ministères qui se multiplient, qui sont très bien, sont des ministères secondaires. Le ministère premier, il y a deux ministères fondamentaux, le ministère du peuple et le ministère de la présidence. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que le diacre, par exemple, est ordonné justement pour seconder celui qui préside. Donc le diaconat suppose la présidence. La preuve en est que, en l'absence de président, le diacre ne fait rien. Ça, c'est très important, ça. Le diaconat n'est effectif que s'il y a un prêtre ou un évêque. Autrement, le diacre dans la communauté, bien sûr, on va dire des vêpres, mais il va organiser des vêpres pour des vêpres sans prêtre, c'est très bien, le frère, d'ailleurs, j'ai fait des cours aussi là-dessus, c'est très intéressant, mais des vêpres non presbytérales, qui est diacre ou qui n'est pas diacre, ça ne fait aucune différence. Le diacre va simplement fonctionner parce qu'il connaît les textes, il connaît les livres liturgiques, il connaît les chants, il va coordonner un peu tout ça, il jouera un rôle de grand frère, si vous voulez, d'aîné, de catéchède, de tout ce que vous voulez, si vous voulez, mais il n'agira pas du tout suivant les termes propres de son ministère dans la célébration. Il ne dira pas litanie, par exemple. Et il n'aura pas litanie, il n'a pas ouvert les portes de l'autel, il n'a pas allumé l'autel, rien de tout ça, il reste avec le peuple, dans le peuple, il n'a pas apporté un vêtement liturgique, parce que personne ne va lui en donner la bénédiction, donc il est et en soutane, certainement, pourquoi pas, parce que c'est le vêtement qui indique tout de même qu'il est au service de tous, bon, mais c'est tout. Vous voyez, donc cette pratique que nous avons là indique bien que le diacre est le second de celui qui préside, et qui n'est pas, ce n'est pas un ministère autonome. Vous voyez? Alors on dit, mais la prêtrise, c'est un peu différent. Oui, la prêtrise, c'est un peu différent, parce que la prêtrise est un ministère qui est dérivé de l'épiscopat, qui est arrivé beaucoup plus tard, vous savez, mais qui est quand même un ministère de présidence. Donc, en ce qui concerne le prêtre, il reçoit mandat de la part de l'évêque pour présider à sa place, et en son nom, les offices. Donc, c'est pour ça que même en l'absence d'évêque, s'il y a un prêtre, on va célébrer la liturgie. On n'aura pas à attendre que l'évêque vienne, puisque justement l'évêque a envoyé ce prêtre pour ça. Voilà, donc je vous dis encore une phrase qui est importante. Il en résulte qu'être dans l'Église, c'est être membre du peuple de Dieu et posséder le charisme du sacerdoce royal, non pour un ministère individuel, mais afin de participer au ministère de l'Église. Alors ici, il y a deux expressions qui sont vraiment très intéressantes. L'expression charisme du sacerdoce royal et l'expression ministère de l'Église. Parce que le titre tout à l'heure, c'était le ministère des laïcs, mais notre théologien ici précise les termes. Alors en tout cas, charisme du sacerdoce royal. Le mot charisme, vous le connaissez très bien, c'est un mot qui veut dire grâce. Donc la participation au sacerdoce royal, c'est pas un droit, c'est pas, enfin, si vous voulez, c'est un droit. C'est un droit, c'est un devoir, bon, je suis d'accord avec vous. Mais bon, c'est pas ça, c'est pas ce dont on parle ici. On est en train de dire que c'est un pouvoir, c'est un petit peu différent. Que c'est le pouvoir de célébrer. Et le pouvoir charismatique de célébrer, c'est-à-dire le pouvoir plein de la grâce du Saint-Esprit, le pouvoir pneumatologique de célébrer, qui fonde cette présence. Être membre du peuple de Dieu, vous voyez, et posséder le charisme du... Donc, il y a une... c'est ça la compétence dont je vous parlais il y a trois minutes. La compétence, ça consiste à posséder ici un charisme, pas seulement une instruction, une formation, une instruction quelconque, si vous voulez, mais être les possesseurs, oui, de la grâce de Dieu, les possesseurs des dons du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit ici consiste à louer le Père Céleste avec le Christ, sous la tête du Christ et en Christ même, en Christ, à l'intérieur même du Christ, vous voyez. Donc, c'est la première expression qui est magnifique, hein, vous voyez, le charisme du sacerdoce royal. Donc, ça veut dire que la communauté chrétienne, on va dire, c'est une communauté charismatique. Bon, alors vous savez très bien que le mot charismatique, à notre époque, est employé pour quelquefois des communautés qui ont, comment dire, qui ne se situent pas si facilement dans la tradition générale, quelquefois on oppose charisme et institution, ce qui est une faiblesse d'ailleurs, parce qu'en fait l'institution doit être charismatique ou elle n'est pas. Ça c'est quand même simple, hein. On va dire ça. L'Église est charismatique ou elle n'est pas. L'institution est charismatique ou elle n'est pas. Si on commence à admettre qu'il puisse y avoir des aspects institutionnels dans l'Église qui ne soient pas charismatiques, ça veut dire que des aspects institutionnels qui seraient purement humains, je ne sais pas très bien où on va. Vous savez bien qu'on est en train de couper l'Église en deux, en disant, mais il y a des choses divines dans l'Église, des choses humaines. Les choses humaines ne sont pas formidables, d'ailleurs, ne sont pas très bonnes. Mais donc, on est en train de couper, de diviser les deux natures du Christ. Je ne sais pas si on peut vraiment continuer dans ce sens-là. Vous voyez, donc, il ne faut pas laisser admettre ça. Ou si on est en train de le dire, ça veut dire qu'il faut changer quelque chose dans notre façon de fonctionner dans l'Église et retrouver bien vite l'expérience charismatique de l'Église. Bien vite. Et je crois que le carême, j'y repense parce que nous sommes dans cette période de carême, je crois que le carême, c'est vraiment une période pour ça. C'est pour retrouver la dynamique charismatique de l'Église. Et sortir des habitudes pour retrouver la vie, sortir des formes pour retrouver le contenu, sortir du rite pour retrouver la rencontre. Je pense à ça. J'ai préparé l'évangile du dimanche des Miroforts pour enregistrer à la radio. Et justement, j'ai écrit ça. J'ai écrit que la promenade matinale des femmes porteuses d'aromates, c'est la naissance du culte chrétien. C'est la substance du culte chrétien. Il n'y a rien de rituel là-dedans. Il n'y a aucune forme. Bien sûr, elles vont oindre ce qui doit être fait. C'est quand même un rite, vous allez me dire. Mais avant même d'avoir accompli ce rite, ce qui est important, c'est leur présence, leur manière d'être, leur impatience, leur étonnement, leur stupéfaction, leur émerveillement, leur crainte, le sentiment d'être tout petit devant un mystère qui les dépasse, leur étonnement devant l'absence du Christ. Où est-il passé? Qu'est-il devenu? Oui, c'est-à-dire que c'est le vécu de la foi qui est premier. Et c'est ça qui fait, c'est ça qui est la substance de notre culte. Et ça, c'est comme ça qu'on retrouve la dimension charismatique de la prière dans l'Église. L'étonnement, l'émerveillement, en entrant dans l'Église. C'est vrai que c'est quelquefois le cas. Tu entres dans une église, c'est tellement beau, il y a des lumières partout, ça sent super bon, il y a les icônes, c'est pas une atmosphère, si vous voulez, mais c'est comme un arbre de Noël illuminé, vous voyez, nous sommes des enfants qui s'approchent d'un arbre de Noël bien décoré, et c'est cette expérience-là d'émerveillement, d'étonnement, et qui est la base de notre culte, quand même, vous voyez, les femmes Miroforts encore plus, c'était pas un arbre de Noël, hein, c'était le tombeau vide du Christ, encore plus extraordinaire quand même, mais elles montrent ces dispositions qui sont, je sais pas, c'est en amont de la religion, c'est avant la religion, avant le rite, vous voyez, après ça, la religion, ça sert, bien sûr, le rite, ça sert, mais ça sert à exprimer, ça ne remplace pas, vous voyez, nos rites sont faits pour témoigner de l'amour que nous avons pour le Christ. Ils ne sont pas faits pour remplacer cet amour. Ils ne sont pas faits pour nous donner bonne conscience d'avoir accompli notre devoir religieux. Vous voyez, c'est ridicule tout ça. Qui voulez-vous qu'on attire vers l'Église avec cette philosophie-là? Oui, c'est pas possible. Alors si nous vivons vraiment un grand amour, eh bien toutes les fleurs que nous allons offrir seront l'expression de cet amour. C'est ça la liturgie, c'est pas autre chose. C'est une chose assez simple, mais tellement profonde que quelquefois nous échappe, ou bien nous sommes devenus trop grossiers pour saisir des choses aussi simples. On dit, c'est comme, disait quel est le comble, je sais pas quel comble c'était, c'était de traire une souris avec des gants de boxe. Que je trouve extrêmement drôle, mais c'est effectivement un peu notre cas. C'est que nous sommes devenus quelquefois si tellement grossiers, tellement lourds, tellement épais, tellement matérialiste, tellement maladroit, tellement autosuffisant, nous sommes incapables de saisir de nos gros doigts la petitesse et la délicatesse du mystère. Oui, ça arrive quand même. Vous me direz pas non, vous me direz pas que ça n'arrive pas. Je le sais bien. Ça m'arrive à moi. Je suis pas pire que les autres. Ça arrive peut-être aux autres aussi. Voilà. Donc ça c'est. Vous voyez, et il revient à page 68, il revient sur cette expression de charisme. Oui, il dit que c'est assez intéressant, c'est la fin de ce paragraphe sur le ministère des laïcs. Il dit, il ne s'ensuit pas que le ministère commun des fidèles exclut le ministère individuel, hein, puisque le charisme commun du peuple de Dieu n'exclut point les charismes particuliers des différents membres de l'Église. Donc ça c'est assez important, ça c'est que ça complète quand même ce qui a été dit précédemment, c'est que le fait que ce soit un charisme commun inclut des charismes je sais pas si j'aime le mot individuel, mais le charisme particulier, il dit. C'est pas mal cette expression. Particulier, c'est peut-être mieux qu'individuel. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre façon de célébrer ensemble, il peut y avoir chacun d'entre nous peut être quand même différent, avoir des dons différents du Saint-Esprit dans sa façon d'appréhender le mystère, dans sa sincérité, je sais pas comment vous dire, dans son attitude intérieure, dans, y compris dans ce qu'il va exprimer à l'extérieur, par exemple le chant, par exemple un service particulier dans le culte, par exemple, je sais pas, l'accueil des frères qui vont arriver, il y a différents charismes qui peuvent se manifester dans la communauté, la prédication chez les gens, là une jeune femme qui s'occupe du catéchisme des enfants pendant le mélie, ben, ce sont des charismes particuliers ceci. Faire le catéchisme des enfants, c'est un charisme particulier. Mais ces charismes particuliers sont, ils ne sont pas gommés, si vous voulez, ils ne sont pas absorbés, ils ne sont pas niés, anéantis par le charisme commun. Ils sont inclus dedans. C'est assez important que le charisme commun du peuple de Dieu fait plutôt fleurir les charismes particuliers de chaque membre et également ceux qui président, ceux qui servent, les diacres, les acolytes, tous ceux qui les chantres, tous ceux qui sont au service du peuple de Dieu peuvent accomplir ça suivant les charismes qui leur sont propres. Parce que même par exemple le charisme de la prêtrise peut être exercé très différent. Il n'y a pas deux prêtres pareils. Il n'y a pas une seule façon d'être prêtre, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il y a des charismes particuliers qui vont se manifester dans un ministère commun, qui est celui de la prêtrise. Mais de même, le charisme du peuple de Dieu admet, bien entendu, des charismes particuliers, vous voyez, c'est assez intéressant. Et je voulais dire aussi, pour conclure sur ce point, pour conclure provisoirement, évidemment, que quand on parle du ministère des laïcs en insistant sur le fait que c'est un ministère commun, je pense qu'il faut aussi dire, il faut également dire que toutes les formes de ministère dans l'Église sont des formes communautaires. On ne peut absolument pas opposer le ministère des laïcs en tant que ministère commun au ministère de la prêtrise ou de l'épiscopat qui seraient des ministères particuliers. En aucun cas. Alors ça, vous pouvez barrer ça tout de suite de vos tablettes. Le ministère du prêtre, c'est le ministère de la prêtrise. Si c'est un ministère commun, c'est le ministère du presbytérium. Donc il n'y a pas, un prêtre n'a pas à exercer un ministère particulier. Il exerce un ministère qui est le ministère de l'Église. Je suis désolé, le ministère de la prêtrise, c'est la prêtrise de l'Église, la prêtrise du Christ, donc déjà un ministère qui ne lui appartient pas. Et en plus, il exerce un ministère qui est commun. Et c'est pour ça d'ailleurs que la concélébration est normative. Il est toujours mieux d'être deux ou plus prêtres pour célébrer la liturgie eucharistique, pour célébrer un baptême, pour célébrer le mariage, pour ce que vous voulez, si vous voulez, mais autant qu'on peut manifester le caractère collégial de la prêtrise. Vous voyez, donc c'est la même chose que le peuple à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en fait, dans l'Église, tous les ministères sont collégiaux. Soit le ministère du peuple, soit le ministère des prêtres, soit le ministère des évêques, parce que l'évêque, c'est pas l'évêque, c'est l'épiscopat. Vous voyez, chacun de nos évêques est membre d'un collège épiscopal, qu'on appelle un synode. Vous savez très bien ça. Et les diacres, c'est pareil, on dit les diacres qui servent dans le Christ. On emploie très souvent l'expression au pluriel. C'est le diaconat, c'est-à-dire que le corps, c'est un corps, il y a un corps presbytéral, il y a un corps diaconal, il y a un corps épiscopal, et il y a un corps du peuple de Dieu. Donc si vous voulez, à tous les registres de l'Église, on retrouve la même structure, c'est-à-dire une structure collégiale, dans laquelle peuvent se manifester des ministères particuliers, puisque comme je le disais présentement, il y a 36 000 façons d'être évêque, 36 000 façons d'être prêtre, et 36 000 et une façon d'être diacre. Voilà. Alors je vous renvoie la liturgie selon saint Basile, ce qui parle de ça justement. Il parle de la manifestation de l'action du Saint-Esprit à travers les ministères. Mais ça, vous comprenez bien que ça va de soi. Si ces ministères sont exercés par des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, eh bien, normalement, comme on dit, ça devrait se voir. Ça devrait se voir. Et moi, je dis que ça se voit. Je sais pas, moi, je trouve que très souvent, ça se voit. Très souvent, ça m'a frappé l'autre jour. J'ai dans une paroisse en province. Nous avons célébré ensemble la liturgie selon saint Basile. C'est l'époque bénie pour le faire. Et une des personnes après ça a voulu exprimer son émerveillement, sa joie et tout. C'est très beau, vous voyez, quand les fidèles eux-mêmes attestent que le Saint-Esprit était présent. Et quel était le signe à présent du Saint-Esprit? Mais c'était la joie. La joie, pourtant, la liturgie était célébrée un peu comme on a pu, ça chantait plus ou moins bien, enfin bon. Mais vous voyez, c'était pas un problème de la compétence ne se manifestait pas par la technicité, elle se manifestait par la présence du Saint-Esprit. C'est donc l'Église en tant que théophanie du Saint-Esprit, la liturgie comme théophanie du Saint-Esprit, qui est vraiment l'objet de notre émerveillement et qui en quelque sorte répond à la question « Pourquoi sommes-nous là ?» ou l'autre question « Que faisons-nous ici ?» qui sont quand même des bonnes questions. Bon, alors, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus, bon, parlons, il me reste encore un petit peu de temps, sur cette présence du Saint-Esprit dans les membres du Christ. Vous savez très bien que l'apôtre Paul en parle, il y a des passages magnifiques dans... Je ne sais pas si je n'ai pas déjà cité ça, quand ça revient à dire globalement « L'Esprit de Dieu habite en vous ». C'est-à-dire que les anciens, les chrétiens de la première génération, dont fait partie l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, comme vous savez très bien, a connu les autres apôtres, a participé au Concile de Jérusalem, donc ces chrétiens de la première génération avaient une conscience très très forte de ça, de la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Ils vivaient l'Église comme... Une Pentecôte, hein, vous voyez. C'est vraiment, on peut vraiment dire que l'Église et le culte de l'Église sont nés de la Pentecôte. Alors, on me dit, mais elle est née combien de fois, votre Église? Ben oui. Alors, on dit qu'elle est née à la Pentecôte, des gens qui diront qu'elle est née à Pâques, d'autres qui diront qu'elle est née au Jourdain, d'autres qui est née dans l'Arche de Noé, qu'elle est née au paradis. Enfin bon. L'Église est née peut-être plusieurs fois. Mais par excellence, elle est issue de la Pentecôte, et les premiers chrétiens en avaient vraiment la conscience très vive. C'est très beau d'ailleurs de voir comment les chrétiens étaient conscients de la grâce du Saint-Esprit. Ben, ça me touche beaucoup, ça. Ça veut dire qu'ils avaient une hypersensibilité à la grâce de Dieu, et quelquefois cette sensibilité, nous l'avons perdue, ou elle s'est émoussée par les habitudes, par manque de vigilance. C'est notre péché, ça, quand même, vous voyez. Qu'est-ce que c'est le péché? Ben, c'est pas de perdre la grâce, mais c'est de perdre le sentiment de la grâce. C'est ce qu'on appelle l'ingratitude. C'est encore un mot qui est de la même famille. Ingrat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire maigre. Ingrat, ça veut dire celui qui n'a pas la gratitude. Qui ne se réjouit pas, qui n'a pas la gratitude, qui n'a pas le sentiment de la grâce. Je pense que l'ingrat n'est pas celui qui n'a pas la grâce, mais c'est celui qui n'a pas la conscience de la grâce. Et c'est ça le péché. Alors maintenant, avoir la conscience de la grâce, comme c'est une grâce, peut-être qu'il n'a pas la grâce d'avoir la conscience de la grâce, je veux bien, si vous voulez absolument discuter, mais je ne pense pas que ce soit Dieu le problème. Je ne pense pas que Dieu retire sa grâce si facilement, mais je pense que nous, enfin moi en tout cas, il m'arrive de devenir insensible à la présence de Dieu, insensible à la grâce de Dieu, et donc ingrat. Alors donc l'apôtre Paul a cette formule-là qui est magnifique, qui résume tout, l'Esprit de Dieu habite en vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Et ça, si vous retrouverez les passages, c'est Romains 8, 9, et 8.11, et c'est aussi à retrouver dans 1er Épître aux Corinthiens 3.16, et dans 2e Épître à Timothée 1.14, et dans plein d'autres textes, évidemment. On peut dire que notre pneumatologie, là, pour pousser un peu sur le champignon dogmatique, notre pneumatologie, la pneumatologie de l'Église, elle est principalement paulinienne. Elle n'est pas uniquement paulinienne, parce qu'elle est d'abord expérimentale, c'est l'expérience rapportée par les actes des apôtres, donc notre dogmatique est une dogmatique existentielle, ça, j'ai souvent l'occasion de le dire, mais après ça, c'est notre dogmatique, en ce qui concerne le Saint-Esprit en tout cas, est une dogmatique vraiment très, très profondément paulinienne. C'est l'apôtre Paul, qui est ce grand charismatique des premiers temps, un très grand charismatique et très grand théologien mystique, pas l'admirable saint Paul, avec ses limites que vous connaissez et que vous rappelez souvent. C'est l'apôtre Paul qui donc nous a donné la plupart des expressions se rapportant au mystère de l'habitation du Saint-Esprit dans les membres de l'Église. Vous êtes le temple de Dieu. Première épître aux Corinthiens, verset 16. Et à voir aussi, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6 à 16. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 21. Tout l'édifice s'élève jusqu'à former un temple saint dans le Seigneur. Ou en tout cas, on va regarder, je vais peut-être le lire un peu plus, la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, première épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 13 à 20. Voilà, je vous lis ça. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ. Oui, c'est une théologie du corps quand même. Et, vous voyez, ou bien, il parle de ceux qui pratiquent la fornication, oui. Ou bien, vous savez, verset 13, ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas. Vous avez été bel et bien acheté. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Vous voyez, c'est l'idée d'une acquisition par la grâce de Dieu. Ça fait allusion à une image dans l'Antiquité. Vous savez que l'esclavage existait, comme il existe de nos jours. Il faut savoir que l'esclavage existe beaucoup encore dans certains pays, de manière assez horrible. Mais dans l'époque romaine, l'esclavage était assez organisé. Et en particulier sur le marché aux esclaves, le nouveau propriétaire, donc, qui achetait un esclave pour le prix demandé, il posait sa main sur l'épaule de ce nouvel esclave pour signifier que cet esclave devenait sa propriété. Et donc il achetait cet esclave et cet esclave était à lui. Il ne s'appartenait plus et appartenait à son propriétaire. Et même dans certains cas particulièrement pénibles, les esclaves étaient marqués au fer rouge, ça s'est beaucoup fait aussi à d'autres époques, mais ça signifie la même chose. Donc, le sceau du don du Saint-Esprit dont j'ai parlé précédemment signifie aussi cette marque d'appartenance au Christ. Le Christ nous a achetés, nous a rachetés, il a payé pour nous par son sang, mais il nous a achetés surtout par cet argent précieux, par la richesse précieuse qu'il a dépensée pour nous. Et quelle est cette richesse qu'il a dépensée pour nous? C'est le Saint-Esprit. Donc c'est assez important, si vous avez une seconde encore, faire attention à ça, c'est que on parle souvent de la rédemption du Christ, par exemple en temps pascal, on dit que le Christ a racheté l'humanité en versant son sang précieux, ce qui est magnifiquement vrai, mais qui n'est pas le tout. D'abord, ça ne doit pas nous laisser prisonniers d'une vision strictement juridique du salut, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus qu'un rachat, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes qui dépasse tout compte et toute loi et toute tarification et toute évaluation. Mais ce qu'on ne dit pas toujours, qu'on ne dit pas assez souvent, et que je vous dis maintenant, c'est que la façon, ce que le Christ a dépensé pour nous et pour nous acheter, c'est justement ce qui se passe dans la chrismation, il dépense l'esprit. Il dépense les arts de l'esprit, il dépense les dons du Saint-Esprit, il dépense la grâce du Saint-Esprit, et même il souffle sur les apôtres pour dépenser, il dépense de l'esprit pour eux. C'est assez important. Tous les dons, c'est les dons du Saint-Esprit, les charismes du Saint-Esprit dont nous parlions, ils nous sont donnés en fait par le Christ. C'est très intéressant. Il y a une réciprocité d'action du Verbe et de l'Esprit dans l'Église, et l'Esprit Saint, bien sûr, donne ses dons lui-même, mais il les donne par le Christ. C'est intéressant. L'Esprit Saint nous donne le Christ, nous donne la foi dans le Christ, par exemple, il nous fait connaître le Christ, il nous fait comprendre l'Évangile. L'Esprit Saint a une action de témoignage à l'égard du Verbe, incontestablement, mais à l'inverse, le Fils de Dieu lui-même C'est lui qui souffle, c'est lui qui insuffle, c'est de lui que recèle la grâce du Saint-Esprit sur nous. Et donc c'est pas seulement une rétribution, si vous voulez, mais c'est une... Il y a quelque chose de... Ah, le Christ paye pour que nous soyons à lui, et qu'à lui, uniquement à lui, exclusivement à lui, et pour cela il paye de la grâce du Saint-Esprit. Donc il paye et de son sang, et de la grâce du Saint-Esprit. C'est très intéressant. Enfin, le Christ n'est pas seulement celui qui rachète par son sang, il est celui qui rachète par la grâce de l'Esprit. C'est pour ça que nous avons aussi ces deux sacrements, le baptême et la chrismation. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on dit, nous sommes les temples, le temple du Dieu vivant. Mais qui dit temple, dit culte, évidemment. Le temple, c'est pas pour rester là, ça veut dire que aussi le culte de Dieu s'accomplit à l'intérieur de nous-mêmes. Vous voyez, c'est que nous sommes l'espace consacré pour la célébration du culte. Alors, il y a justement, c'est encore Père Afanassiev qui parle de ça, c'est page 123, il parle justement de la multiplicité des dons dans l'Église et dans les assemblées. Et il cite l'apôtre Paul, 1er épître de Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 11, que vous connaissez mais que je vous relis. Que dit l'apôtre Paul? Parlons justement des dons particuliers. Que chacun de vous emploie au service des autres le don charisma qu'il a reçu, comme doivent le faire de bons administrateurs des diverses grâces de Dieu. En effet, à l'un est donné par le moyen de l'Esprit une parole pleine de sagesse, à l'autre une parole pleine de science selon le même Esprit, à l'un est donné la foi par le même Esprit, à un autre les dons de la guérison par ce même Esprit, à un autre le pouvoir d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits avec un petit e, à l'un le don de parler diverses langues, à l'autre l'interprétation de ces langues. Tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue ses dons à chacun en particulier comme il le veut. Donc ça, c'est assez important ici, c'est de voir que la présence du Saint-Esprit dans l'Église, dans la communauté des baptisés, est une présence unique. Il y a un seul et unique esprit. Ce que nous disons, d'ailleurs, je pense, assez souvent, il y a d'autres textes qui m'échappent pour le moment, mais donc nous insistons sur... Il ne peut pas y avoir deux esprits dans l'Église, vous voyez. Il n'y a qu'un esprit, il n'y a qu'un Christ, comme il n'y a qu'un Père, il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'une Église, qu'une seule foi. C'est l'apôtre Paul qui dit ça, oui. Un seul Seigneur, une seule foi, une seule Église, un seul et même Esprit. Donc même s'il y a cette diversité des dons et des charismes, y compris dans l'assemblée liturgique, hein, cette diversité, si vous voulez, elle confirme en fait l'unité, parce qu'on doit pouvoir reconnaître l'unique hypostase de l'Esprit dans l'Église, dans la variété de ses dons. Un peu comme, si vous voulez, le soleil se reconnaît à la... même dans, je sais pas, dans la multiplicité de ses rayons. Vous voyez, même si je ne regarde pas vers le soleil, la lumière qui va éclairer mon balcon, ou qui va éclairer telle plante, vers laquelle va se tourner telle plante dans le jardin, c'est la lumière de ce soleil. Donc je, tout seul, comme un grand, j'ai fait sans réfléchir très très longtemps, j'ai fait le rapport entre les taches du soleil, les rayons du soleil, et le soleil lui-même. Donc il en est de même de l'esprit. Les dons du Saint-Esprit se rapportent à l'unique Esprit de Dieu. Alors, les conclusions de ça, si vous voulez, sont assez importantes. Peut-être que je devrais quand même, il me reste 10 minutes, arriver quand même à conclure là-dessus. C'est qu'il y a des conséquences de tout ça qu'il faut tirer. Ça veut dire que donc, d'une part, la liturgie n'est pas autre chose que la participation à l'Esprit de Dieu. Sincèrement, hein, et que c'est en participant à l'Esprit de Dieu que nous participons au Verbe, parce que le Verbe est celui qui nous pousse vers le Christ. Que comme le Christ est rempli du Saint-Esprit, tous communient à l'esprit qui est en lui, ça on l'a déjà dit, qu'ils ont l'esprit du Christ non seulement en raison de la chrismation qu'ils ont reçue au Saint-Baptême, mais en tant que célébrants, ça on l'a dit, et qu'en ce sens, la diviniturgie est le moment de la divinisation de l'homme, de sa transfiguration âme et corps. Donc ça, c'est très important, évidemment, hein, je l'ai déjà dit un peu dans d'autres circonstances, je parle de transfiguration quand la liturgie apparaît vraiment comme l'icône vivante et animée en mouvement, et, parce que la liturgie n'est jamais statique, la liturgie est toujours, c'est un mouvement, c'est une flamme, c'est un écoulement, c'est un mouvement des personnes. Mais cette icône en mouvement doit pouvoir être l'icône de la présence du Saint-Esprit, ou la présence du Christ par le Saint-Esprit, la présence de la Divine Trinité dans l'Église. Vous voyez. Ça, c'est très important. Et ça, si ça se réalise, eh bien, ça veut dire que le phénomène, le miracle de la déification a eu effectivement lieu. Et c'est ce que dit... Saint Nicolas Cabasilla. Saint Nicolas Cabasilla, qui parle de l'Eucharistie, il dit que l'Eucharistie est un moment de divinisation de l'homme. Parce que, si vous voulez, la divinisation de l'être humain ne se fait pas par l'adhésion à une idéologie chrétienne ou à une morale chrétienne, elle se fait par le fait que l'esprit infusé en lui, il fait vivre l'homme nouveau en Christ. Que c'est comme un feu qui s'allume un morceau de bois, vous voyez, il l'embrase complètement, le morceau de bois qui était tout terne, il devient rouge, on ne peut même plus le prendre à la main tellement il est brûlant. Mais regardez les plaques électriques de vos cuisinières, eh bien c'est quand la plaque est allumée, on voit bien que le feu s'est mis dans le métal de la plaque, qui la rend incandescente. Donc le phénomène d'édification, ça paraît, c'est un phénomène d'incandescence, c'est pas un phénomène d'adhésion à des idées. Encore que les pensées de Dieu peuvent devenir nos pensées, et nos pensées à nous peuvent aussi se conformer aux pensées divines, bien entendu. Mais il ne s'agissait pas que de cela, oui. Alors, les autres conséquences, et c'est le père Schmemann qui insiste beaucoup là-dessus, et lui, il insiste donc effectivement sur ce qui se passe réellement. Je l'ai dit, c'est son réalisme à la fois dans d'eau et d'esprit. Si vous avez ce livre, vous retrouverez ça, page 110 et suivante, page 128, et également page 147, où il dit en beaucoup mieux ce que j'ai essayé de dire devant vous, c'est-à-dire donc la réalité de tout cela. Pas une théorie, c'est pas une hypothèse, c'est pas une utopie non plus, c'est une réalité. Alors effectivement, j'en profite quand même pour réfuter les pensées de certains que je peux deviner, qui vont dire oui, mais tout ce que vous dites là, mon bon monsieur, c'est bien beau, mais c'est complètement une utopie, parce que c'est pas du tout ça qu'on voit dans les églises. Bon. Alors il y a une réponse à cela quand même, que d'une part c'est vrai, d'une part il est vrai que notre vie liturgique en paroisse ou ailleurs, quelquefois, est assez en dessous de cette réalité. Bon, mais la deuxième réponse, c'est que d'une part, on peut travailler dans les paroisses, on peut faire des répétitions de chœur, on peut avoir des catéchèses, on peut se réunir, on peut demander à nos prêtres de nous instruire, on peut se confesser, on peut se repentir. Il y a quand même tout un travail qui peut être fait pour arriver à réaliser ce mystère, c'est-à-dire à entrer vraiment dans le réel de l'Église, parce que de toute façon, ce réel, ce dont j'ai parlé, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. C'est plutôt que nos paroisses, quelquefois, sont loin de la réalité. Et donc, on va travailler spirituellement, intellectuellement, liturgiquement, on va travailler les icônes, on peut peindre, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour travailler, pour s'approcher de cette réalité et y communier davantage, c'est numéro un. Et ensuite, la troisième réponse que j'ai à apporter à c'est pas une accusation, mais cette objection, c'est que souvent nous ne voyons pas cela parce que nos yeux ne sont pas ouverts. Et que, vous voyez, c'est complètement la même chose que de dire il fait nuit, sous prétexte que les volets de la maison sont fermés, les rideaux tirés, que je porte des lunettes de soleil à l'intérieur même de cette même ténèbre, et que j'ai peut-être même un bonnet sur les yeux par-dessus mes lunettes dans une chambre fermée, aux volets fermés, aux rideaux fermés. Je vais dire, il fait nuit. Bah oui, mais après, écoutez, donc c'est cette... quelquefois des remarques assez négatives que nous faisons sur l'Église, sur notre entourage, viennent simplement du fait que nos sens spirituels sont anesthésiés ou comment ça s'appelle, atrophiés, voilà, je cherchais le mot. Donc la balle est un peu dans notre camp, que chacun d'entre nous, par le repentir, par la prière, la confession de ses péchés surtout, et par une prière appropriée, que peut lui donner son père spirituel s'il en a un, chacun d'entre nous essaie d'ouvrir un peu les yeux pour voir ce réel de l'Église. Je vous assure que c'est moi-même, qui ne suis pas meilleur que les autres, comme je dis, il m'est arrivé d'avoir les yeux ouverts quand même dans l'Église et de voir la réalité de ce qui est fait, de ce qui se passe là. Je me rappelle très bien d'une fois où j'étais dans l'assemblée. Et au moment de l'élévation, quand le prêtre élève avec le diacre lève la patène et le calice, j'ai vraiment vu ce qui se passait. Vraiment vu que c'est passé, que tout ceci était vrai, que tout ceci était réel, que tout ceci était actuel, que tout ceci avait lieu effectivement. Simplement parce que j'ai ouvert un peu les yeux à ce moment-là de l'endroit de l'église où j'étais. Vous voyez, il faut ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux pour voir ce qui est et voir le réel. Voilà. Grâce à Dieu.